Bonjour Maxime.
Bonjour Raphaël. Tout s'est bien passé au salon ?
Très bien.
Bon,
je vous ramène quelque chose ?
Ah oui, c'est gentil. N'importe quoi, je mange tout de toute façon. Moi, je suis
bon,
comme ça. Surtout à 7h.
Mais
oui,
à
7h20, on vous retrouve tout à l'heure en direct du Salon de l'Agriculture. Bonjour Julie.
Bonjour Maxime.
Et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce mercredi matin.
Mm-hmm. Dernier jour de février. Il est 7h sur Europe 1. Europe Matin, Maxime Switek.
À 7h, le journal. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Un homme bien sous tout rapport en apparence. Âgé d'une cinquantaine d'années, il est soupçonné d'avoir commis une vingtaine de viols dans la région de Maubeuge depuis 1988. On en parle dès le début de ce journal. À la une également, Hélène.
Le volte-face de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, disait ne pas vouloir se rendre au Salon de l'Agriculture. Finalement, il y est allé hier soir après la fermeture. On se réveille à nouveau ce matin avec des températures glaciales. 13 départements du Sud en vigilance orange, neige et verglas. Un ingénieur bordelais a créé des sortes d'igloos pour les sans-abri. Et puis ça se passe comme ça en Coupe de France. Le petit club des Herbiers qui joue en 3e division a sorti Lens et disputera les demi-finales.
D'ici 7h30, voilà votre programme, l'innovation à Nissem Bida. Nous parlerons de la sécheresse et de nouvelles solutions pour lutter contre la sécheresse. Le vrai faux de Géraldine Vosner. Est-ce que vraiment les ordonnances permettent d'aller plus vite? Et puis 3 questions au PDG de Nestlé France, Richard Girardot. Il sera l'invité de Raphaël Duchemin depuis le Salon de l'Agriculture. Évidemment, 7h25, ce sera Jérôme Commandeur.
Les policiers l'avaient surnommé le violeur de la Sambre. Cet homme d'une cinquantaine d'années, en apparence sans histoire, pourrait être impliqué dans 22 affaires de viol et d'agression sexuelle dans la région de Maubeuge ces 30 dernières années. Les enquêteurs ont réussi à le confondre grâce à son ADN, Lionel Gougelot, et on découvre un violeur en série que personne n'avait repéré.
Effectivement, simplement parce que ce père de famille de 56 ans, récemment grand-père, était un homme au-dessus de tout soupçon, casier judiciaire vierge, ouvrier modèle, ancien président du club de foot de sa commune, très impliqué dans le milieu associatif. Le plus incroyable, c'est qu'il n'ait jamais été reconnu par une de ses victimes. Le maire de Pont-sur-Sambre est tombé des nues quand il a appris son arrestation hier soir. Difficile en effet de réaliser que l'homme chez qui il allait déjeuner parfois en famille était un véritable prédateur sexuel recherché depuis près de 30 ans, vous l'avez dit, donc dans la région.
Et après toutes ces années, Lionel, comment est-ce que les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'à lui?
Grâce à une image de vidéosurveillance captée en Belgique après l'agression d'une adolescente de 16 ans au début du mois. On y voit la voiture du suspect et son immatriculation française. Les policiers belges alertent leurs collègues français, mais c'est le scénario de cette agression au petit matin qui aurait fait tilt dans l'esprit des enquêteurs de la police judiciaire lilloise. Il s'agissait du même mode opératoire que celui qu'ils appelaient donc depuis plus de 20 ans le violeur de la Sambre. L'étude du fichier des cartes grises leur permettra d'identifier ce père de famille. À son domicile, les policiers retrouveront plusieurs armes blanches dont il se serait servi pour menacer ses victimes. Les comparaisons ADN viendront confirmer les soupçons. L'homme a le même profil génétique que celui identifié dans plusieurs affaires de viol commis dans la région et donc jamais résolues, mais l'enquête devrait être élargie à une quarantaine d'autres faits non élucidés, de viols et d'agressions sexuelles, là encore, mais cette fois des deux côtés de la frontière, en France et en Belgique.
Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Après des mois de bras de fer, la juge d'instruction décide de retenir le caractère antisémite dans le meurtre de Sarah Halimi l'an dernier à Paris. Au cri d'Allah Akbar, son voisin avait roué de coups cette femme de 65 ans, juive pratiquante, et l'avait ensuite jetée dans le vide.
Europe 1, il est 7h03.
Il y avait foule côté politique hier au Salon de l'Agriculture. Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, François Bayrou et une surprise.
Oui, Nicolas Hulot, venu en catimini. Le ministre de la Transition écologique avait pourtant dit qu'il ne s'y rendrait pas, Mélanie Nunes.
Il était annoncé comme l'absent du Salon de l'Agriculture. Aucune visite inscrite à son agenda officiel. Mais hier soir, après la fermeture vers 19h, le numéro 3 du gouvernement poste un tweet inattendu. Une photo prise depuis le salon, sans journaliste, attablé au stand de l'INRA, avec la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Quelques minutes plus tard, on le retrouve aux côtés de Christiane Lambert, de la FNSEA, principal syndicat des exploitants agricoles. Il ne saluera ni éleveurs, ni vignerons, ni apiculteurs, non. Le ministre est venu voir des scientifiques, souligne-t-il, au micro de Public Sénat.
J'ai jamais dit que j'y allais ou j'y allais pas, je suis très intuitif.
Est-ce que vous avez été blessé par les critiques, parlant de dérobades?
Honnêtement, vous savez, moi dans la journée, je suis enfermé sur mes dossiers, donc vous me l'apprenez. Les agriculteurs, on peut les voir au salon, tout le monde vient. Moi, je les vois toute l'année. Et que là, on part, on prend du temps et pas sous le feu des caméras.
Car Nicolas Hulot n'est pas forcément le bienvenu dans les allées du salon. Lui qui prône une interdiction du glyphosate d'ici 3 ans, alors que de nombreux agriculteurs s'opposent vivement à cette sortie.
Mélanie Nunes au Salon de l'Agriculture pour Europe 1. Combien allons-nous payer notre litre de lait, notre steak haché, maraîchers ou notre kilo de carottes, la question sera tranchée demain soir avec la fin des négociations commerciales entre distributeurs et industriels. Elles permettent de fixer les prix pour l'année 2018. Des discussions en forme de bras de fer. Pourtant, les distributeurs assurent qu'ils ont joué le jeu. Écoutez leur représentant Jacques Cressel.
Il faut sortir de la désinformation. La grande distribution joue le jeu des états généraux de l'alimentation. D'abord, la quasi-totalité des contrats aujourd'hui sont signés. Il reste simplement des difficultés sur certains grands contrats avec quelques grands acteurs industriels. Par ailleurs, il y aura une augmentation des prix, notamment sur tous les produits à forte composante agricole, ceux qui sont justement concernés par les états généraux de l'alimentation, sur les produits laitiers, sur les produits à base de viande. Il y aura une augmentation de prix qui a été estimée entre 0,7 et 2% il y a quelques jours. On est très loin de la déflation qui est annoncée.
Le représentant des distributeurs au micro européen d'Anne-Laure Jumet.
Et nous verrons justement ce qu'en dit le PDG de Nestlé France. Il sera l'invité de Raphaël Duchemin depuis le Salon de l'agriculture à 7h20.
La réforme de la SNCF, les syndicats de cheminots temporisent. Ils veulent donner du temps à la concertation et renvoient au 15 mars la décision sur une éventuelle grève. Comme prévu, nous avons vécu hier le jour le plus glacial de l'hiver. Un quatrième décès dans l'Ain, celui d'une femme âgée de 93 ans retrouvée devant le portail de sa maison de retraite. La ministre de la Santé Agnès Buzyn en appelle au civisme. Si vous voyez une personne à la rue, n'hésitez pas à appeler le 115, le numéro du SAMU social. 72 départements sont désormais concernés par le plan Grand Froid. Un ingénieur bordelais a eu l'idée de créer des abris en forme d'igloo pour tous ceux qui n'ont d'autre choix que de dormir dehors. Ça permet de gagner 15 degrés par rapport à la température extérieure. Une vingtaine de prototypes sont testés en ce moment à Bordeaux et Paris. Reportage de Stéphane Place.
Au pied d'un immeuble de bureau, un igloo. En fait, un petit dôme blanc de 2 mètres sur 1 mètre 20, 90 cm de hauteur. C'est ici que Bébel, un sans-abri bordelais vivant depuis 10 ans dans la rue, vient de passer la nuit à quelques mètres de la Garonne. Le thermomètre a flirté avec les moins 5, mais grâce à cet igloo, il assure ne pas avoir souffert du froid.
Voilà, c'est en alu et à polystyrène. Il va rentrer dedans, c'est au chaud. Moi, j'ai eu plus de 10. J'ai pas eu froid cette nuit, pour moi ça va.
Cet abri protégeant les SDF de la pluie et du froid, c'est un ingénieur de 26 ans qui l'a imaginé, Geoffroy de Rénal.
Plus solide qu'une tente, c'est un peu plus grand, c'est une forme de demi-tunnel. Il est ventilé, il est résistant au feu de l'intérieur. J'utilise la mousse de polyéthylène, c'est une sorte de polystyrène souple, la mousse de frites de piscine, donc qui est étanche, aussi isolante que le polystyrène ou la laine de verre. Et dessus, on vient souder une feuille d'aluminium qui à la fois renvoie les rayonnements, donc protège encore plus du froid. C'est la chaleur humaine, en fait, c'est les 100 watts du métabolisme de base qui sont conservés et qui permettent d'augmenter la température.
10 prototypes testés actuellement à Bordeaux, 10 autres à Paris. L'igloo est facilement transportable et n'a pas coûté plus de 150 euros l'unité. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et ces igloos pourraient être fabriqués en série pour une utilisation l'hiver prochain. Dans le sud de la France, on va peut-être pouvoir en construire des vrais, des igloos. La neige est annoncée dans 13 départements qui sont placés en alerte orange.
Europe 1, 7h07.
Aro sur les véhicules qui roulent au diesel en Allemagne.
Oui, Angela Merkel s'est empressée de dédramatiser. Pourtant, la décision du Conseil d'État allemand est bien un camouflet pour sa politique environnementale. Depuis des années, les gouvernements successifs et municipalités remettaient à plus tard les mesures anti-pollution en ville. Mais là, Hélène Kohl, les juges ont tranché. 10 millions de diesel devront rester au garage d'ici la fin de l'année.
Félix est vendeur de fromage sur les marchés de Berlin. Depuis hier, sa camionnette de 2012 fait partie des véhicules jugés trop polluants.
Soit j'en achète une nouvelle, ça va coûter 30 000 euros, ou bien j'équipe celle-ci avec un filtre à 2500 euros environ. La vraie question, c'est est-ce que les constructeurs vont prendre ça en charge? Mais ils ont les moyens de s'y opposer, le fric, les avocats, ils sont puissants, ils paieront jamais.
L'an dernier, Daimler et BMW ont distribué plus de 400 000 euros aux principaux partis politiques, qui ferme les yeux depuis des années sur les pratiques de la filière. Le scandale des moteurs truqués n'a rien changé et le désamour des Allemands pour la voiture grandit. Une majorité d'entre eux approuve la décision des juges. La santé publique doit passer d'abord, estime ce Berlinois.
C'est évidemment une bonne décision car on respire de la merde, ça nous empeste. Mais les conséquences sont brutales. Moi j'ai deux diesels et c'est comme si j'étais exproprié, leur valeur dégringole.
Chaque année, environ 10 000 Allemands meurent à cause de la pollution des villes et 70 communes comme Stuttgart, Munich ou Cologne dépassent les seuils de dioxyde d'azote tolérés par l'Union européenne. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
C'était la très bonne nouvelle hier pour notre économie, l'annonce de Disney qui va investir 2 milliards d'euros dans son parc d'attractions de Marne-la-Vallée à partir de 2021, ce qui devrait générer des milliers d'emplois. C'est toute une région qui va continuer à profiter de la locomotive Disney, particulièrement les 7 communes autour de Val d'Europe où s'est rendu Justin Morin.
De grands espaces verts, un golf, des habitations flambant neuves, ce qui frappe en arrivant sur le territoire, c'est la modernité des lieux. Quand Disney est arrivé au début des années 90, à peine 5000 âmes, beaucoup d'agriculteurs. 25 ans plus tard, 35 000 habitants vivent ici et ces nouveaux investissements ne vont pas ralentir les 3000 nouvelles arrivées chaque année. Jean-Paul Balcou, président de l'agglomération et maire de Magny-le-Hongre.
C'est une excellente nouvelle. Ce sont des attractions nouvelles qui vont renforcer l'envie des gens de venir ou de revenir sur les parcs et générer des nuitées supplémentaires sur notre secteur.
Disney a permis la construction de 9000 chambres d'hôtel, c'est 9 millions d'euros de taxes de séjour par an pour les communes. Ajoutez à cela les 14 millions de contributions financières des entreprises, des retombées énormes mais presque insuffisantes aujourd'hui pour faire face à la croissance exponentielle du territoire. Anne Burzik, maire de Bailly-Romainvilliers.
Les besoins de Val d'Europe ne correspondent à ceux d'aucun autre territoire. Et donc nous avons besoin d'avoir un État qui prenne en compte, en termes d'infrastructures, de transport, les besoins de ses futurs nouveaux habitants.
Et qui faciliterait aussi les discussions avec Disney pour créer d'autres activités complémentaires. Les élus rêvent par exemple d'un nouveau Las Vegas à la française, la firme américaine beaucoup moins.
Justin Morin.
Le foot avec la grande tradition de la Coupe de France qui a été respectée, un petit poussé a renversé un plus grand.
Oui, le club des Herbiers qui joue en 3ème division s'est qualifié pour les demi-finales hier soir, victoire face à Lens qui joue en 2ème division à l'issue des tirs au but. Mathieu Pichot, le gardien des Herbiers, a été décisif en arrêtant deux tentatives lensoises.
Ah, c'est un truc de fou là, d'habitude c'est les autres et cette année c'est nous, donc pour l'instant je réalise pas vraiment, mais je suis super heureux pour le club, pour nous les joueurs aussi du club et pour la Vendée, c'est extraordinaire. Enfin, non, il n'y a plus de limite, de toute façon on s'interdit pas de rêver, hein, forcément on a le droit et puis jusque là c'est ce qu'on a fait et puis ça nous a plutôt bien réussi.
C'est du Bob Marley, le petit chant de la victoire des joueurs des Herbiers. Ce soir, un autre petit poussé Chambly accueille Strasbourg. Et puis on suivra le choc PSG-Marseille. Les Parisiens privés de Neymar, le père de Brésilien, affirme qu'il sera absent au moins 6 semaines. Ce qui veut dire qu'il ne jouera pas contre le Real le 6 mars en Ligue des Champions.
Et c'était Hélène Zellani pour le journal. Merci Hélène et à tout à l'heure.
Europe 1, 7h11, Switech.
L'innovation, bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
La ville du Cap en Afrique du Sud connaît une sécheresse sans précédent. Si la situation ne s'améliore pas, les autorités envisagent de couper l'eau courante carrément. Du coup, eh bien, les scientifiques du monde entier cherchent de nouvelles sources d'eau douce.
Oui, c'est même une course contre la montre. Les autorités ont fixé une date butoir. S'il ne commence pas à pleuvoir, à partir du 9 juillet prochain, les réserves d'eau passeront sous un seuil critique. Et c'est l'armée qui distribuera alors des rations de 25 litres d'eau par jour et par personne. 25 litres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est une douche d'à peine 3 minutes, hein, c'est 8 fois moins que ce consomme un Français tous les jours. Donc il y a vraiment urgence à trouver de l'eau. Du coup, bah, chacun y va de sa petite idée. Hein. On ressort par exemple un projet dont vous avez peut-être entendu parler, ramener un iceberg par remorqueur.
Ah oui, c'est des vieux projets ça,
exactement.
Des vieux fantasmes.
Il se trouve que la ville du Cap est sur la côte atlantique, hein, donc en principe il suffirait d'installer un iceberg tout près du port, d'y brancher un gros tuyau pour remplir les réservoirs.
Attends, c'est sérieux, c'est ce qu'ils vont faire ?
Alors pour le moment, rien n'est décidé, hein, mais une étude a déjà été réalisée. C'est totalement possible. Avec un iceberg de 7 tonnes, il faudrait 5 mois de remorquage. Mmh. Il perdrait 40% de sa masse pendant le transport. Mais ça laisserait quand même plus de 6 mois d'eau douce à la ville. Alors il y a d'autres projets comme ça. Hein, récupérer l'humidité de l'air, réutiliser les eaux usées. Mais à chaque fois, il s'agit de solutions temporaires ou partielles pour une métropole qui engloutit quand même 500 millions de litres d'eau par jour. Donc on cherche plutôt une source durable parce que si la sécheresse pourrait bien continuer aujourd'hui.
Pourquoi ne pas dessaler l'eau de mer tout simplement puisqu'ils sont sur la côte?
Parce que ça coûte cher et que c'est pas très écologique et les rendements sont pas extraordinaires. Pour vous donner une idée, 3 stations de désalinisation sont actuellement installées en urgence, mais elles produiront seulement 16 millions de litres d'eau douce par jour. Là où je vous disais que la ville en a besoin, 500 millions. Hein. Donc c'est aussi une solution temporaire ou une solution d'appoint. Donc pour le moment, les scientifiques regardent sous la mer, parce qu'en 2013, on a découvert de très importantes nappes d'eau douce, tenez-vous bien, sous l'océan, hein, à proximité des côtes. Donc il y a la mer, il y a la terre et sous l'océan, il y a encore de l'eau. Jusqu'ici, ça restait une curiosité, mais avec la sécheresse du Cap et celle qui menace également des villes comme Sao Paulo ou Mexico, on se dit que peut-être on a là une source de secours quand les nappes phréatiques de surface, elles, seront à sec.
L'innovation aquatique aujourd'hui. Merci Anissé, à demain.
À demain.
Europe 1, il est 7h14.
À suivre le vrai faux de Géraldine Vosner, le gouvernement prévoit de recourir aux ordonnances pour mener la réforme de la SNCF. Avec ses arguments, les ordonnances sont très fréquentes et elles permettent d'aller plus vite. Vrai ou faux, on va vérifier ça. L'invité de 7h20, 3 questions ce matin à Richard Girardeau, le PDG de Nestlé, en direct du Salon de l'Agriculture, alors que les négociations commerciales se terminent entre la grande distribution et les grands groupes agroalimentaires. Et puis dans la foulée, ce sera Jérôme Commandeur pour le Commandeur News. À tout de suite et bon réveil.
Europe 1, 7h16, Maxime Suitec.
Et voici les titres de ce mercredi matin. 72 départements en plan grand froid alors que 4 personnes sont mortes ces derniers jours. Aujourd'hui, la neige gagne du terrain. 13 départements du sud sont désormais en alerte orange. Un violeur en série peut être sous les verrous. Cet homme d'une cinquantaine d'années est soupçonné d'une vingtaine de viols dans le nord ces 30 dernières années. Il a été confondu par son ADN. Il a commencé à passer aux aveux. Il avait dit qu'il ne viendrait pas. Pourtant, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, s'est finalement rendu au salon de l'agriculture hier, mais après la fermeture. Et puis le foot, exploit du petit club de 3ème division, des Herbiers qui se qualifiaient pour les demi-finales de la Coupe de France en éliminant Lens. À suivre ce soir, PSG-OM.
Europe 1.
Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Le vrai faux et les ordonnances qui font grincer des dents.
Le gouvernement prévoit d'y recourir pour réformer la SNCF comme il l'a fait pour le Code du travail. Seuls les aspects techniques du texte sont visés pour l'instant, mais ça pourrait changer en cas de blocage. L'argument avancé, c'est qu'il faut aller vite et que ces ordonnances, selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, seraient en fait banales.
Entre 2004 et 2013, on a eu recours 357 fois aux ordonnances, soit en moyenne 3 fois par mois.
On a légiféré 357 fois par ordonnance ces dernières années, c'est vrai ou faux ?
C'est vrai, un rapport du Sénat l'a récemment établi. 357 ordonnances ont été publiées sur cette période sur le fondement de l'article 38 de la Constitution qui permet au gouvernement d'éviter le débat parlementaire. Les élus l'y autorisent au début, puis valident les décisions qui ont été prises à la fin, mais il n'y met pas son grain de sel. Seulement, ce que ne dit pas Benjamin Griveaux, c'est que ces ordonnances dans le passé ont surtout porté sur des aspects techniques, des textes concernant l'outre-mer, le droit européen dans plus des deux tiers des cas. Et s'il est vrai que les gouvernements y recourent de plus en plus, c'est dans le cadre de lois dont seules certaines parties réglementaires passent par ordonnance. En fait, je n'ai retrouvé que 3 textes sur toute la période qui soient intégralement passés avec cette procédure. Les contrats nouvelles embauches de Dominique de Villepin en 2005, abrogés par la suite. Une loi pour simplifier les rapports avec l'administration et une autre qui portait sur des projets de construction. Les ordonnances sur le code du travail, en fait, ne sont que la 4e.
Et alors justement, est-ce que ça a permis d'aller plus vite ?
Mais pas tant que ça. Hein. J'ai repris les 19 lois votées depuis l'élection de M. Macron. Elles ont mis en moyenne 3 mois et 27 jours pour être promulguées. On a souvent usé de la procédure accélérée. Les ordonnances sur le code du travail, elles, ont mis 2 mois et 26 jours, mais elles n'ont pas été appliquées tout de suite parce qu'il fallait des décrets d'application pour les plus importantes. La réforme, en fait, n'est applicable que depuis la fin de l'année. Le délai réel a donc été de 6 mois. Et encore, hein, la loi n'est pas encore validée puisqu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel. À titre de comparaison, la loi El Khomri, la loi travail, a mis 4 mois et demi avant d'être promulguée, donc c'était plus rapide, alors qu'elle était beaucoup plus importante, hein, 120 articles, 6000 amendements. Le gouvernement est passé en force, mais il y a eu débat.
Donc la rapidité, Géraldine, c'est un faux argument ?
Bah oui, les juristes de l'Assemblée le disent d'ailleurs, hein, ça permet au mieux de gagner quelques semaines. Pour eux, le but recherché, c'est plutôt d'éviter de longs débats avec le Parlement, car qui dit ordonnance dit pas de travaux de préparatoire, pas d'études comparatives, pas d'interminables séances filmées avec dépôt d'amendements. L'administration peut travailler seule. Un débat aura bien lieu au moment de valider les décisions, mais il sera circonscrit.
Le vrai faux, merci Géraldine Vosner et à demain.
À demain.
Vous écoutez Europe 1, il est 7h20 et jusqu'à 9h30, c'est Maxime Soutek.
Et nous allons tout de suite prendre la direction du salon de l'agriculture où on va retrouver en direct Raphaël Duchemin. Raphaël, vous y êtes depuis 5h, vous êtes au parc des expositions de la Porte de Versailles et vous recevez ce matin au salon donc Richard Girardeau, le PDG de Nestlé France.
Effectivement, bonjour Richard Girardeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici au Salon de l'agriculture sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui en France, il faut le redire, hein, le plus gros fournisseur de produits alimentaires. C'est-à-dire que quand on fait nos courses dans les magasins, nous consommateurs, c'est bien souvent vos marques qu'on achète.
J'espère.
Sauf qu'entre vous et nous, il y a les distributeurs. Et c'est en ce moment justement qu'on fabrique les prix. Les négociations s'achèvent ce soir avec la grande distribution. Négociations qui ont lieu tous les ans pour fixer le tarif des produits que nous achetons. Est-ce que c'est ce qu'on a entendu dire, les pires négociations que vous ayez eues à connaître ?
Non.
Non ?
Non.
Mais elles se passent mal.
Elles se passent mal, mais elles se passent comme se sont passées et se sont déroulées les négociations ces 4 dernières années.
La même ambiance. Pour quelle raison elles se passent mal ?
Elles se passent mal, à mon avis, l'accélération qu'on pourrait déceler cette année, c'est que la distribution s'attend à des ordonnances et une nouvelle loi, comme on l'a entendu dans le sujet précédent. Et donc veut accélérer, profiter de cette dernière année de de open bar pour eux.
Open bar, vous dites.
Open bar.
On a pourtant entendu, arrêtez-moi si je me trompe, pendant les états généraux de l'alimentation, tous les acteurs juraient la main sur le cœur qu'à partir de maintenant, ce serait différent. Manifestement, ce n'est pas le cas.
Pendant quel événement, pardon?
Les états généraux de l'alimentation, non?
C'est un événement qui est passé. Je pense que les EGA ont été le fruit d'une volonté présidentielle remarquable et attendue. Il fallait ces EGA. Certains ateliers ont très très bien fonctionné, dans un bon esprit entre les partenaires. Tout ce qui concernait les relations industrie-commerce, non. Non.
On n'a pas signé une charte de bonne conduite au mois de novembre.
C'était la charte signée lors du bal des hypocrites, où tout le monde a signé une charte, mais personne ne la respecte depuis. Et on est bien placé pour savoir que les opérations ont eu lieu, infirmant ce qui a été co-signé par tous les partenaires de la chaîne de la valeur.
Personne ne la respecte, par exemple. Donnez-moi un exemple.
Par exemple, certains clients voulaient les noms.
Oui.
Voulaient les noms, évidemment. Oui. Si je vous cite Intermarché avec sa promotion à moins 70...
Vous parlez du Nutella ou de vos marques?
Nutella et Perrier. Perrier était concerné par cette opération.
C'est-à-dire qu'ils ont vendu au-delà de ce qu'ils auraient dû faire?
Oui, très clairement, oui. C'est pour cette raison qu'on les assigne auprès du tribunal actuellement. Enfin, ça a été fait dans les 15 derniers jours.
Vous aviez signé des autorisations de promotion?
On avait ce qu'on appelle un mandat. Et ce mandat concernait une promotion à 35%, c'est-à-dire 3 pour 2, pour être très clair. Et cette promotion, c'est muté, on va dire, en une promotion à moins 70.
Ce sont des grosses centrales d'achat. Elles sont 4. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il faut changer le mode de fonctionnement. Vous parliez du bal des hypocrites.
Je pense qu'effectivement, en France, on est dans une situation où on a 4 clients. Mais si je vous cite l'Australie, il n'y a que 2 clients. Si je vous cite l'Angleterre, il n'y a pas beaucoup plus de clients. La relation, par exemple, avec Tesco en Angleterre, qu'on ne connaît pas ici, se passe de manière sereine tous les ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits, mais il n'y a pas ces espèces de psychodrames annuels où l'État intervient, où les distributeurs interviennent, où tout le monde s'agite pendant 2 mois et en particulier la dernière semaine de février.
Donc là, on est dans la dernière ligne droite pour les négociations. Comment ça va se terminer?
Comme tous les ans, en signant à minuit, 1h du matin, dans les fameux box.
Et qui va gagner?
Qui va gagner? La distribution, forcément.
Pas le consommateur?
Le consommateur, non, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas parce qu'un instant...
Pas l'agriculteur non plus?
Ni l'agriculteur, c'est clair.
Et vous? Vous n'allez pas forcément nous faire pleurer? Vous êtes Nestlé?
On va... Au niveau international, le groupe se porte bien. En France, il se porte mal. C'est très clair. Et il y a certains indices d'ordre social qui le mettent bien en avant. Non, le distributeur va gagner. Et surtout, le consommateur ne va pas gagner parce qu'il va perdre en qualité. Et c'est là-dessus qu'on essaye de se battre. C'est les uns et les autres, main dans la main avec les agriculteurs. On essaye de se battre sur la qualité. Mais ça fait des dégâts. Un industriel qui fabrique des flammes Kuche m'a annoncé la semaine dernière dans la réunion professionnelle que 2 de ses concurrents avaient dû déposer le bilan. C'est une PME, c'était 3 PME. Donc c'est pas que les grands groupes qui sont touchés, ça touche aussi les petits et la qualité des produits des petits.
Merci Richard Girardot, PDG de Nestlé France, d'avoir été en direct avec nous ici au Salon de l'agriculture, Maxime.
Merci Raphaël Duchemin et merci à votre invité.
Europe 1, 7h25.
Dans une seconde, Jérôme Commandeur, à tout de suite.
Good morning la France, this is Commander News on Europe 1.
Et Commander News, vous le savez, c'est tous les matins 7h25. Aujourd'hui, il flotte dans ce studio comme un parfum de tapis rouge.
Mais oui, l'ancien agent de star et désormais producteur incontournable Dominique Besnéard a souhaité nous rendre une petite visite à l'occasion de la sortie de La Ch'tite Famille, le nouveau film de Danny Boone.
Oh, ma petite quinquin, ma petite couchin, ma gros rougin.
Qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là? Elles sont toutes douces, la Maxime et la Julie ce matin. On dirait deux petites chattes qui ronronnent devant un feu de bois. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas crié comme ça. Hein. Non. Bon, alors concernant La Ch'tite Famille de Danny Boone, écoutez bien, j'ai un scoop.
quoi ?
Scoop. Une news, une exclue.
Ah, un scoop ? J'avais pas compris.
Faites faire aussi les oreilles à la médecine du travail. C'est gratuit. Puis ça fait plaisir à l'entourage en général. Bon. Le casting de la 6 famille, les 5 étoiles. Il y a Dany, il y a Aline Renault, il y a Valérie Bonneton, il y a Pierre-Richard. Bon. Et mon scoop. Moi, vous savez, Julie, j'adore le Nord. J'adore le Waterjoy, le Potchevlech, le Welsh. Et Dany qui me dit, est-ce que tu veux passer les essais pour jouer mon frère dans le film? Tu viens entre 4 et 5. Alors moi, je lui dis 6.
Vous n'étiez pas libre à 4 heures?
Comment ça, j'étais pas libre à 4 heures? Bah, bien sûr, j'étais libre à 4 heures. J'y suis allé. J'ai dit 6.
Donc plus tard, 6.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis arrivé à l'heure pour que... Ah non, j'ai pas dit 6.
Ah, pas 6.
6.
Oh là là.
Pas 6 entre 5 et 7. 6 de d'accord.
Oh, écoutez, je comprends rien, ça va.
Bon, allez, laisse tomber. Je parle à Spitek, hein, il traduira en langue des
Allez-y.
Signes. Alors, je m'assois, je lui dis, je viens pour la Stick Famille. Il me dit, la quoi? La Stick Famille. Alors, il me dit, si déjà t'arrives pas à prononcer le titre, tu vas avoir du mal à jouer dans le film. Il me dit, j'étais vexé, ma Maxime, j'étais vexé. Quand tu dis 6, qui me dit Dany, on a l'impression qu'on écrase une couette.
Une quoi?
Une couette. Une pêche.
Ah!
Oh, je vous laisse tous les deux. Hein. Mettez le sonotone sur 6 parce que sinon vous allez rater des trucs.
Hein. On met sur combien?
Oh, vous m'emmerdez.
Jérôme Commandeur et Dominique Besnéard.
On peut retrouver Jérôme Commandeur au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris pour son spectacle Tout en douceur. Un spectacle européen, bien sûr.
Dans une minute, le journal de 7h30. Laurent Cabrol, bonjour à vous.
Bonjour, Maxime Hérault. Bonjour à tous. C'est le grand froid, puisque certains d'entre vous qui nous suivent depuis 5 heures suivent cette météo et suivent avec anxiété le grand froid sur la moitié nord. Ça ne va pas durer, c'est le dernier jour. Sous abri, nous avons moins 13 à Langres, moins 12 à Nancy, moins 10 à Lyon. Oui, ce sont des températures très froides. Sous abri, hein, moins 9 à Orléans, moins 8 en banlieue parisienne. Et puis dans le sud, c'est la neige. Et la neige progresse à une vitesse incroyable. Ce matin, à 5 heures, il n'y avait pratiquement que le Pays Basque qui était touché. Et bien maintenant, ça y est, le Gers, la Haute-Garonne, les Landes sont concernés par ces chutes de neige qui vont gagner et qui vont progresser vers l'Hérault, vers l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Var sont et seront concernés également par ce type de temps. Bref, toute la moitié sud de la France sera sous un ciel le plus souvent encombré, neigeux et surtout venteux. C'est là où se situent les dangers. D'une manière générale, les températures suivent à peu près ce que je dis, à savoir que sur la moitié nord, nous resterons dans les températures dans la journée extrêmement froides, entre moins 2 et plus 3. Et sur la moitié sud, là où la neige arrive, eh bien le redoux va se manifester au fil des heures et nous serons pratiquement de 4 à 8 degrés, ce qui signifie que la neige ne va pas tenir bien longtemps.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe 1, 7h30.
Europe 1, Maxime Switek.
À 7h30, le journal, c'est avec vous, Émilie Bonneau.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
À la une ce matin, la grève à la SNCF attendra. Les syndicats se décideront le 15 mars après la présentation de la réforme en Conseil des ministres. Et d'ici là, ils devront convaincre de l'utilité d'un mouvement. Les autres titres.
Le grand froid encore pour quelques heures et après, comme à chaque fois, les sans-abri vont retourner dans la rue. Les associations alertent les pouvoirs publics sur la fin de l'hébergement d'urgence. La Corée du Nord fournirait du matériel à la Syrie pour fabriquer des armes chimiques, révèle un rapport des Nations Unies. Et puis les élèves de terminale n'ont plus que 2 semaines seulement pour se décider et faire leur vœu d'études supérieures.
Juste après ce journal, ce seront les figures libres avec Vincent Hervouette qui nous parlera de l'assassinat d'un journaliste d'investigation en Slovaquie. Hélène Jouan reviendra sur la visite surprise de Nicolas Hulot au salon de l'agriculture. Et puis Carole Ferry pour l'économie. Elle nous dira que l'Allemagne pourrait bien interdire les vieux diesels. Et en France, pour l'interrogation, eh bien on avance mais au ralenti. Et Mathieu Noël sera là également.
Pour le moment, pas de grève à la SNCF. Les syndicats préfèrent finalement attendre le 15 mars, c'est-à-dire le lendemain de la présentation du projet de loi sur la réforme. Et si le gouvernement acte le recours aux ordonnances, alors là, c'est sûr, ils se mobiliseront, assure Laurent Brun de la CGT.
Si le gouvernement devait choisir le passage en force sur la casse de l'entreprise, la casse du service public et la casse sociale, alors, à ce moment-là, nous engagerions un rapport de force avec lui. Nous avons participé à des concertations avec Jean-Cyril Spinetta, nous avons participé à des concertations avec le ministère à l'issue du rendu de son rapport. Toutes nos critiques ont été complètement balayées par le gouvernement, rien n'a été retenu. Donc, si on est dans cette situation de dialogue-là, on n'est pas dans le dialogue, on est dans la confrontation. Et donc, on assumera la confrontation. Il y aura grève à la SNCF.
Laurent Brun de la CGT Cheminot avec Aurélien Fleureau. Menace de grève, donc, reportée de 2 semaines. les syndicats de la SNCF ont-ils vraiment les moyens d'engager un bras de fer avec le gouvernement? Ce n'est pas certain. Olivier Samain.
Le premier défi, c'est celui de l'opinion publique. Le soutien majoritaire des Français aux cheminots en grève avait été décisif en 95. Pas sûr que l'histoire se répète. Les enquêtes montrent que les Français n'ont plus le même regard sur le combat des cheminots. Les trains en retard, la dégradation du service, l'explosion des coûts alimentent les discussions et la nécessité d'une réforme en profondeur de la SNCF gagne les esprits. Un sondage réalisé il y a deux jours nous révélait que 7 Français sur 10 approuvent l'abandon du statut pour les futurs cheminots. Les syndicats de la SNCF ont conscience qu'un combat centré sur ce sujet en particulier aura du mal à convaincre. Ils doivent aussi relever un deuxième défi, en interne cette fois. La sociologie des cheminots a fortement changé. On en a peu parlé, mais une bascule s'est opérée il y a deux ans. Au sein de la SNCF, il y a désormais plus de cadres et d'agents de maîtrise que d'agents d'exécution. Et aujourd'hui, un cheminot embauché sur 3 est recruté hors statut, autrement dit avec un CDI classique. Ces nouveaux salariés, souvent plus jeunes, plus qualifiés, ont moins l'esprit de corps que leurs aînés. Il sera sans doute plus difficile de les mobiliser.
Olivier Samain du service économie.
Que répond la ministre des Transports au syndicat ce matin? Elisabeth Borne sera notre invitée, l'invitée d'Europe 1 à 8h15.
On vient de passer la nuit la plus froide de l'hiver. Préparez-vous donc encore à une journée difficile. Et puis demain, les températures vont remonter. Ce qui inquiète d'ailleurs les associations d'aide aux sans-abri, car cela veut dire que l'hébergement d'urgence va être réduit. Et de nouveau, des milliers de personnes en difficulté vont se retrouver à la rue. Jean-Jacques Herry.
Cet hiver, 150 000 places d'hébergement sont disponibles en France et avec le plan grand froid, 5 000 sont venues s'ajouter temporairement. Mais avec la fin de l'hiver et du froid, plus de 20 000 personnes vont potentiellement retourner dans la rue. Insupportable pour Samuel Coppens de l'Armée du Salut.
On est encore dans une gestion au thermomètre. Évidemment, il ne faut pas laisser les gens à la rue. Et donc, nous acceptons de participer à cet effort qui est demandé. Par contre, nous avons des exigences. Nous irons jusqu'au bout du plan hivernal. Nous ne remettrons pas de gens à la rue le 31 mars. Nous voulons que toutes les personnes aient trouvé quelque chose de stable à la sortie.
Il faut sortir de la logique de l'urgence, celle des gymnases réquisitionnés à la hâte et des lits de camp. Une évidence que Nicolas Clément du collectif Les Morts de la Rue est lassé de répéter chaque année aux autorités.
Les gens sans domicile et à la rue meurent en moyenne à 49 ans. Ceux qui sont hébergés de façon durable, eux, meurent à 62 ans. Donc rien que pour ça, évidemment qu'il faut mettre un toit sur la tête des gens.
Hier matin, lors de sa première maraude parisienne, l'Armée du Salut a distribué un petit déjeuner à 56 personnes. Tout avait passé la nuit dans la rue. Par moins 6 degrés.
Jean-Jacques Herry, avant le retour de températures qui annonceront le printemps ce week-end, 13 départements du Sud sont en alerte orange à la neige et au verglas. Un violeur en série recherché depuis 30 ans, arrêté près de Maubeuge dans le Nord. Cet homme confondu par son ADN pourrait être impliqué dans une quarantaine d'affaires. Un père de famille, président du club local de foot, il doit être déféré devant le parquet dans la journée. Près d'un an après le meurtre d'une retraitée juive à Paris, Sarah Halimi, le mobile antisémite est finalement retenu par la justice. C'est ce que réclamait depuis des mois l'avocat des enfants de la victime, Jean-Alex Buchinger.
Ce meurtre qui a été commis au début du mois d'avril 2017 l'a été avec une motivation antisémite indéniable. Des témoins qui ont assisté à la défenestration de Sarah Halimi ont témoigné des propos tenus par le meurtrier, des propos islamistes tels que « tu es le chétan, tu es le Satan, Dieu m'en sera témoin », des coups qui lui ont été portés avec une sauvagerie ponctuée de sourates du Coran, avec des cris « Allahu Akbar ». Donc pour tout le monde, le caractère antisémite ne pouvait faire aucun doute, sauf pour le magistrat instructeur. Il aura fallu attendre pratiquement un an pour que les faits soient requalifiés avec des circonstances aggravantes. Et donc pour la famille, je dirais pour l'ensemble de la communauté juive, c'est un véritable soulagement. On est enfin parvenu à ce que je qualifierais de manifestation de la vérité.
L'avocat de la famille de Sarah Halimi, joint par Alain Accot.
Europe 1, 7h36.
Au salon de l'agriculture, deuxième jour de visite pour Édouard Philippe, le Premier ministre attendu en tout début d'après-midi à la rencontre des producteurs de chez lui, de Normandie. Le salon où Europe 1 est installé jusqu'à dimanche à l'espace France Terre de Lait et où vous avez passé la nuit, François Geffrier, car même les portes fermées au public, la vie continue au salon. François, dites-nous, que se passe-t-il?
Eh bien, ça chante. Toute la nuit, les voix des Corses réchauffent ce hall d'exposition traversé par des courants d'air glacial. Mais il n'y a pas que la musique.
Des champs corses, des produits corses, du vin corse. On est dans la Corse, mais à Paris. Là, on voit du vin rouge corse. Celui-là, il vient du patrimoine. Je peux vous faire goûter si vous voulez.
Les vaches non plus ne sont pas couchées. Tout va bien. On enchaîne avec les Vendéens qui fêtent au vin mousseux tous leurs produits label rouge. Qu'est-ce qu'on mange?
Donc, on a fait un pain perdu à la gâche avec un petit crémeux de pommes tatin.
Et au-dessus, on a une émulsion briochée à la fleur d'oranger et au rhum.
Et le salon, la nuit, c'est comment?
Je sais pas si on doit trop le dire, mais essayez de vous cacher quelque part, ressortez vers 19h30, les gens se retrouvent. Du coup, on peut aussi profiter des animaux et aller faire une petite visite.
Une petite visite aux moutons, par exemple? Allez, on continue. Il y a une réception sur le stand de la filière laitière, énorme buffet fromage, charcuterie, champagne et des ennemis qui discutent autour d'un verre, la Confédération Paysanne avec le porte-parole de Lactalis, les gros pulls de laine face au costume cravate. On ne sort pas le micro, mais on regarde et on en parle après avec ce syndicaliste.
C'est un peu bizarre comme ambiance. Hein. Franchement, on serre la paluche, on discute le bout de gras, mais en même temps, voilà, tout le monde met un petit peu son poing dans sa poche. Par contre, après, ça va repartir plein de bourre.
Un tracteur aspire la paille dans les allées, les étudiants vétérinaires se tournent les pouces, les Corses chantent toujours, les verres se vident, on range les bouteilles et les vaches vont bientôt devoir retourner à la traite.
François Geffrier au Salon de l'Agriculture où l'on ne dort jamais.
Et Europe 1 sera une nouvelle fois en direct du Salon aujourd'hui à 12h30 pour Europe Midi, 13h15 pour Circuit Court et également entre 15h et 16h pour La Vie Devant Soi avec Isabelle Quenin. Dans une minute, la Corée du Nord qui aiderait la Syrie à fabriquer des armes chimiques. Rapport des Nations Unies révélé ce matin, tout de suite.
Europe 1. Il est 7h39, Maxime Switek.
À la suite du journal Émilie Bonneau, la Corée du Nord aurait fourni du matériel à la Syrie pour fabriquer des armes chimiques. C'est ce que révèle ce matin un rapport des Nations Unies.
Oui, et d'après les experts cités par la presse américaine, la Corée du Nord est parvenue à contourner l'embargo international en échappant à la surveillance des renseignements occidentaux, ce qui a permis donc à ces armes de faire des ravages dans le pays jusqu'à très récemment, puisqu'il y a de forts soupçons d'attaque au gaz de chlore sur la zone de la Ruta il y a quelques jours. Aude Vernuccio, ce rapport est très documenté.
Oui, ces experts des Nations Unies affirment que la Corée du Nord a effectué plus de 40 livraisons à Damas de matériel haut de gamme. Des thermomètres, des tuiles résistantes à l'acide et aux températures élevées, des valves ou encore des tuyaux en acier inoxydable, du matériel utilisé pour fabriquer des armes chimiques. La dernière livraison aurait même eu lieu il y a quelques semaines seulement. Autre élément, en 2016 et en 2017, au moins deux visites en Syrie d'experts nord-coréens en chimie et en missiles balistiques. Pour le gouvernement syrien, il s'agissait d'entraîneurs sportifs. D'après CNN, certains de ces experts pourraient même toujours officier dans des bases militaires syriennes. Alors comment ont pu s'organiser ces livraisons et ces visites alors que la Corée du Nord est sous embargo et la Syrie sous haute surveillance? D'après le rapport, les transactions ont été effectuées via des sociétés écrans. L'une d'elles se trouverait en Chine. A-t-elle fermé les yeux, tout comme la Russie, alliée inoxydable de Bachar al-Assad? C'est ce que recherchent désormais, à savoir les enquêteurs de l'ONU.
Aude Vernuccio, et ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en appelle au régime syrien pour faire enfin respecter la trêve humanitaire sur la Ruta.
C'est la dernière ligne droite pour les 800 000 élèves de terminale. Il ne leur reste plus que deux semaines pour faire leurs vœux sur Parcoursup.
Oui, c'est la plateforme qui remplace APB pour la suite de leurs études et pour les plus indécis. Il y a une formule qui cartonne en ce moment, c'est de demander des conseils à des étudiants via des sites dédiés. Ève Roger.
On les appelle les éclaireurs ou encore les advisors. Leur mission est de conseiller les lycéens par téléphone comme Océane en 5e année de journalisme.
Allô ? Salut Magda, c'est Océane. Alors dis-moi, du coup, t'aimerais des infos sur le journalisme ? Exactement.
Elle est payée 5 euros par appel, un job d'étudiant qui peut lui rapporter jusqu'à 200 euros par mois. Et pour elle, son avis vaut largement celui d'un conseiller d'orientation.
Je pense qu'un advisor, c'est plus utile dans le sens où il s'est déjà parlé de la formation qui intéresse le lycéen. Or, un conseiller d'orientation, je pense qu'il ne connaît pas toutes les formations qui existent en France. Et souvent, je pense qu'il oriente super mal, en fait.
Sur la plateforme Inspire, ils sont 15 000 étudiants bénévoles, 2 000 pour Studio Advisor, l'un des fondateurs, Léo Sunigo.
Nous, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de lui fournir le meilleur outil de décision possible en lui donnant accès à un réseau. Car il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à un réseau, en fait, tout simplement parce qu'ils viennent de milieux défavorisés. Un réseau accessible à tous, complètement gratuit, directement aux jeunes de notre pays.
Un service totalement gratuit pour Inspire, mais pas sans contrepartie pour Study Advisor. Pour financer le site, les coordonnées des lycéens sont revendues, avec leur accord, aux établissements privés partenaires.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Dans le journal d'Émilie Bonneau, merci Émilie, à tout à l'heure.
Europe 1, 7h42.
Les figures libres, toute la bande est là. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Maxime. On va parler de l'assassinat d'un journaliste qui enquêtait sur la corruption. Cette fois, ça se passe en Slovaquie. Il y a 3 mois, c'était à Malte, parce que désormais, on tue des journalistes en Europe, comme au Moyen-Orient, comme en Russie, comme en Amérique latine. C'est nouveau.
La politique. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour à tous. Clic-clac Kodak, c'est dans la boîte. Passage fugace hier du ministre de la Transition écologique au Salon de l'Agriculture. Mais pourquoi Nicolas Hulot est-il venu ni vu ni connu dans cet endroit inventé pour que les politiques s'y montrent?
Fugace, c'est le bon mot en tout cas. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Maxime, bonjour à tous. La justice allemande a ouvert la porte hier à l'interdiction des vieux diesels dans les villes les plus polluées d'Allemagne. En France, on continue d'avancer, mais avec un moteur un peu bridé.
Un vieux diesel. Bonjour Mathieu Noël.
Oh. Bon. Ah oui, là, je n'avais pas compris que c'était pour moi. Je te félicite. Tu vas prendre cher tout à l'heure. Je vais changer la chronique. Maxime, m'étant fixé pour objectif de ne plus parler de Laurent Wauquiez, quoi qu'il arrive, et ce même s'il se mettait à humer du foin dans les allées du salon de l'agriculture en lançant à une vache, je cite, « Allez mémère, monte-moi tes mamelles », je respecterai mon engagement, mais croyez-le bien, à regret.
Oui, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Suite pour les figures libres sur Europe.
Europe 1, 7h44, Maxime Switek.
L'essentiel de l'actualité, finalement, pas de grève pour le moment à la SNCF. Les syndicats se décideront le 15 mars en attendant de savoir si le gouvernement aura ou non recours aux ordonnances. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, sera notre invitée à 8h15. Un violeur en série arrêté près de Maubeuge dans le Nord, cet homme confondu par son ADN, pourrait être impliqué dans une quarantaine d'affaires depuis 30 ans. Il doit être déféré devant le parquet aujourd'hui. Le dernier jour de grand froid avant le redout la nuit prochaine, 13 départements du Sud sont en vigilance orange à la neige et au verglas, notamment le Var. Et puis le foot, le PSG retrouve l'OM ce soir à 21h en quart de finale de la Coupe de France. Hier soir, qualification du petit club de National, les Herbiers, vainqueurs de Lens au tir au but.
Et on passe aux figures libres, Maxime.
Avec Vincent Hervouet pour l'International. Vincent, l'assassinat d'un journaliste en Slovaquie. Voilà de quoi on va parler ce matin. Ce journaliste enquêté sur des affaires de corruption. Sa mort provoque évidemment une grande émotion et elle oblige à regarder en face le poids qu'a pris la mafia en Europe.
Oui, Jan Kuciak a été assassiné dans sa maison de campagne avec Marina Kusirova, la femme qu'il allait épouser. Ils avaient 27 ans et ils forment un couple pour l'éternité. Une balle dans la tête, une balle dans le thorax, tirée à bout portant. C'est un meurtre de professionnel, une exécution. Les policiers disent qu'il est très probablement lié à son travail. Alors, on croirait entendre Dupont et Dupont, parce que personne ne doute en Slovaquie qu'on ait fait taire Jan Kuciak. Il s'était fait connaître en enquêtant sur les affaires de corruption politique, des histoires d'immobilier, de fraude fiscale. Et il avait mis Robert Fico, le Premier ministre de gauche, et ses alliés d'extrême droite, dans l'embarras. Avec les médias, il n'y a pas de connivence en Slovaquie, c'est une guerre permanente. Robert Fico a réagi au double meurtre en dénonçant une atteinte à la liberté de la presse qui fait partie de notre démocratie. Pour apprécier ce blabla convenu, il faut se souvenir qu'il traitait en conférence de presse les confrères de serpents visqueux, de simples hyènes idiotes ou de sales prostituées antislovaques. On écoute Robert Fico parler des journalistes et on se souvient de ce qu'Alexandre Solzhenitsyn disait des communistes, ils ne savent aimer que les morts. Depuis 3 jours, de Prague à Bratislava, on allume des bougies en hommage au couple assassiné. Il y aura une marche contre la corruption ce soir et une autre vendredi.
Est-ce qu'on sait, Vincent, précisément sur quoi enquêtait Jan Kuciak ?
Alors, il y a un dossier qui n'a rien à voir avec le marigot habituel. C'est une fraude au fonds structurel européen montée dans l'est de la Slovaquie par des Italiens liés à la mafia calabraise, la Nangreta, et en contact avec le gouvernement slovaque. Ça éclaire d'un jour particulier l'affaire. La mafia italienne sait intimider les journalistes. L'auteur de Gomorra, Roberto Saviano, a si bien décrit la Camorra qu'il a un contrat sur la tête. Vous me direz, c'est l'Italie. Sauf que les centaines de clans de la mafia calabraise gagnent du terrain en Europe, à l'Est notamment. C'est la pieuvre sans frontières et on estime son chiffre d'affaires à plus de 50 milliards d'euros. Alors on peut discuter de l'estimation, mais pour donner une idée, c'est le PIB de la Croatie ou celui de la Bulgarie où Chypre, Malte et l'Estonie réunis. La seule mafia calabraise pèse donc plus lourd que 3 États européens.
Et est-ce que l'Europe en a conscience ?
Il y a 5 ans, le Parlement européen a mis en place une commission anti-mafia, comme on allume un cierge pour conjurer le démon. Difficile de lutter contre le crime organisé qui profite à plein de la mondialisation. Et cet après-midi à Strasbourg, les députés européens rendront hommage à Jan Kuciak comme à un vétéran de la liberté de la presse. Mais c'est aussi un combattant qui est tombé sur la ligne de front d'une guerre que personne ne veut voir.
La Carole Ferry.
Mais finalement, Vincent, est-ce que l'Europe a les moyens de s'attaquer à cette mafia qui a l'air, de ce que vous dites, de plus en plus puissante ?
Il faudrait, parce que chaque pays réagit de son côté, mais les mafias sont justement très habiles pour être à cheval sur plusieurs États à la fois. Et puis, c'est le crime est une organisation. C'est un chiffre d'affaires absolument exponentiel. Ils ont une puissance politique qui est de plus en plus forte. Ils suppléent aux défaillances de l'État. Ils assurent des œuvres sociales. Ils ont un rôle économique très très fort. On estime que c'est la première entreprise mondiale, le crime, avec 1500 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année.
Ils ont explosé avec la mondialisation, quoi.
En Europe notamment.
Merci Vincent Hervouet. La politique dans ses figures libres avec vous, Hélène Jouan. Le salon de l'agriculture, ses vaches, ses stands régionaux, le défilé des politiques. Cette année encore, que du classique. Pas tout à fait. Hier, un ministre qui n'y était pas attendu, Nicolas Hulot, y a fait une visite surprise, Hélène.
Nicolas Hulot au salon, c'est comme si un boucher s'invitait au salon vegan, relevé il y a quelques jours un de ses proches. Forcément, ce serait un carnage. Alors ça, c'était avant. Avant que le ministre de l'écologie n'invente le principe de la visite furtive. Rien n'a son agenda, mais un petit tweet avec photo en début de soirée, une fois le salon de l'agriculture fermé aux visiteurs. Rapide discussion avec des scientifiques de l'INRA, rencontre avec la présidente de la FNSEA, un petit tour et puis s'en va, ni vu ni connu. Pendant que ses collègues tentent de conquérir des records de durée, de fréquentation, de pommes avalées, de cul de vache tâtée, Nicolas Hulot s'ingénie à faire tout le contraire. Alors forcément, ce ne fut pas un carnage, il n'a croisé personne.
Mais attendez, juste une question, est-ce que c'est grave si le ministre n'y passe pas des heures ?
Non, c'est son droit le plus strict, sa méthode, comme il le dit lui-même. Une méthode qui consiste à préférer discuter sérieusement autour d'une table avec ses interlocuteurs, plutôt que de se prêter à la mise en scène d'un ministre poursuivi par une nuée de micros et de caméras, tels des goélands suivant un chalutier. Sauf que ce passage furtif est un aveu de la situation particulière dans laquelle il se trouve.
Un aveu ? Pourquoi un aveu ?
Parce que même s'il s'en défend, il a bien modifié ses plans au dernier moment pour faire un passage express et confidentiel au salon, soucieux en fait d'échapper à l'accusation de dérobade qui pesait sur lui. Et pourtant, c'en est bien une de dérobade. Tout simplement parce que Nicolas Hulot est aujourd'hui un ministre empêché. Empêché parce que fragilisé personnellement, sinon politiquement, par l'affaire de plein pour viol, déposé contre lui et classé sans suite, il n'est pas dans une forme olympique, reconnaît aujourd'hui encore un de ses amis. Comprenez, il n'est pas en état d'être confronté à une question de journaliste ou à l'interpellation de tel ou tel zozo dans les travées du salon. D'autant que l'écolo Hulot fait figure d'épouvantail au sein de la communauté agricole. Même son récent assouplissement sur l'interdiction du glyphosate ne lui assurait pas la promesse d'un accueil sympathique et convivial. Allez, Winnie, Weedy et pas forcément Wiki, mais l'honneur est sauf. Nicolas Hulot a mis les pieds au salon. Aujourd'hui, après le Conseil des ministres, il s'accordera un break de quelques jours avec ses enfants pour leurs vacances scolaires. Après, promis, il reprendra le cours normal de ses activités. Il va présenter notamment le 15 mars prochain son plan de rénovation énergétique des bâtiments. Plus en mode furtif cette
Vincent
fois.
Vincent Hervouet.
La vie politique est dure. Hein. La tyrannie de la transparence peut dévaster une vie publique. Mais bon, personne n'empêche un ministre empêché de redevenir auteur, producteur, homme d'affaires. Et puis j'ajoute à ça que quand même, les agriculteurs qui triment 365 jours par an doivent envier un ministre qui peut prendre comme ça des vacances en plein milieu d'année.
Des vacances, il prend deux jours. Petite vacances.
Un week-end.
Prend deux jours, il prend un long week-end.
Week-end prolongé, on va dire ça comme ça. Merci Hélène Jouan. L'économie dans ses figures libres avec vous, Carole Ferry. La justice allemande a donc mis un terme hier à plusieurs années de bataille judiciaire entre une association de lutte contre la pollution des vieux diesels et les villes allemandes qui refusaient de s'attaquer au problème. Une décision, Carole, qui pourrait avoir un impact fort, d'abord en Allemagne évidemment.
Eh bien oui, parce que ça veut dire fin des vieux diesels en ville, des villes comme Düsseldorf, Francfort, jusqu'à 70 villes les plus polluées en Allemagne. Alors Angela Merkel temporise, le gouvernement va regarder cette décision. Il faut dire que l'impact n'est pas négligeable sur l'industrie automobile, bien sûr, très puissante en Allemagne, sur les taxis, les artisans qui roulent au diesel, sur les propriétaires de ces vieux diesels que vont devenir leurs voitures. 10 millions de véhicules au moins sont concernés. Alors en même temps, l'Allemagne doit donner des gages à Bruxelles. Toutes ces villes dépassent les normes de pollution autorisées. Et il y a eu un rappel à l'ordre le mois dernier.
Et la France d'ailleurs a également été rappelée à l'ordre. Est-ce qu'on a présenté depuis, comme prévu, un plan anti-pollution ?
Oui, parce que chez nous aussi, quasiment toutes les grandes villes explosent les limites européennes. Mais honnêtement, rien de nouveau dans la copie envoyée par le gouvernement à Bruxelles. C'est disons une petite compilation de ce qui est prévu sur 5 ans. Une taxe identique sur l'essence et le gazole d'ici 2021. Un renforcement de la prime à la conversion ou encore la vignette critère. Or, ce que veut Bruxelles, ce sont des résultats immédiat.
Mais attendez, la vignette critère, c'est un résultat immédiat ?
Pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a que Paris qui l'utilise tous les jours pour interdire les véhicules les plus polluants entre 8h et 20h.
J'ai bien fait de poser la question.
Partout ailleurs, elle sert uniquement... Alors oui, ça sert un peu. Ça sert en cas de pic de pollution pour dire quels véhicules peuvent rouler. C'est disons un traitement d'urgence, mais absolument pas un traitement de fond. Mais peut-être que si l'Allemagne prend les devants, interdit effectivement les vieux diesels dans toutes les villes polluées, bien peut-être que la France lui emboîtera le pas finalement.
Et en même temps, quoi qu'il arrive, il y a quand même déjà de moins en moins de diesels en circulation.
Bien sûr, parce que les Français ont bien senti le vent tourner. Hein. Peugeot a d'ailleurs annoncé qu'il construisait son dernier moteur diesel, sauf que le diesel c'est tout de même 12 000 emplois en France. C'est pour ça que Bercy va réunir toute la filière en avril pour voir comment on peut assainir l'air tout en limitant la casse sociale.
Et ça fera peut-être des devoirs de vacances pour Nicolas Hulot, tout ça. Hélène Jouan, une question.
Oui, vous avez parlé des villes les plus polluées en Allemagne. Est-ce qu'en France, il n'y a pas quand même des villes qui essaient d'avoir un plan global pour essayer de sortir du diesel?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, pas grand-chose. Ce que je disais, hein, uniquement en cas de pic de pollution, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, il y en a une trentaine de villes qui réagissent en cas de pic de pollution. Mais ça pourrait changer parce que Nicolas Hulot leur a demandé à tous les préfets de rendre une copie d'ici le 31 mars pour rendre cette copie à Bruxelles. Et peut-être que là, on aura des nouveautés. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
Week-end.
Exactement, on est d'accord. Voilà pour ces figures libres, Julie.
Europe 1, 7h54, Maxime.
Et dans un instant, il redébarque dans ce studio. C'est Mathieu Noël, à tout de suite.
Europe 1, 8h05, Europe Matin, avec Maxime Switek.
Mathieu Noël qui n'est pas du tout à son affaire ce matin.
Mais un collègue Évaroc vient me parler de dîner dans le studio. C'est
Mathieu, le thermomètre devrait commencer à remonter demain. Une bonne nouvelle pour les organismes et surtout pour les journalistes qui ne savent plus trop quoi raconter sur le froid, c'est faux.
Oui, Maxime, depuis quelques jours, le standard du numéro vert SOS Marronnier explose. Les appels de journalistes en détresse se multiplient. SOS Marronnier, bonjour. Oui, ici Rémi Padangle, stagiaire au Parisien aujourd'hui en France. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit Rémi? Il me faudrait encore un sujet rigolo sur le froid, mais comme on a déjà fait, la neige à Nice, le micro-trottoir rue Glacière avec les témoignages de mamie en doudoune qui glisse sur les plaques d'égout.
C'est drôle, ça.
Les conseils futés du patron d'AutoPlus pour déjouer les pièges du verglas et le dossier sur les bons réflexes contre le froid avec le super titre que vous m'aviez donné, le damar ne suffira pas. Je crois qu'on arrive un peu au bout, là. Mais non, Rémi, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Un petit dossier anglais médical sur les vertus du froid par Michel Simès ou Gérald Kirzek qui est moins cher. Déjà fait. Conso vie pratique, ils construisent un frigo artisanal dans leur jardin en recyclant des congères. Déjà fait lundi. Mince. Tourisme, le naturisme en igloo, la nouvelle tendance avec un focus sur les pratiques sexuelles étonnantes des lapons. C'est à la fois rigolo et un peu racoleur, ça pourrait séduire le public des seniors encore sexuellement actifs.
Ah oui.
Mais non, madame Julie, on l'a déjà fait. Ah, attendez, je tiens l'idée. Vous appelez Jean Maillet, lexicographe et auteur du livre Inoubliable expression de grand-mère, et vous lui demandez de vous lister toutes les expressions liées au froid par pays. Ce cahier les miches, caïn de maïche, se peler le jonc, pelando et le chibro. Et puis un bonus, un petit encadré conso, thé ou vin chaud, soupe pour athlète. L'article s'intitulera « Oh la vache, ça meule ». Merci qui ? Oh, merci SOS Marronnier ! Alors, je ne jette évidemment pas la pierre aux Parisiens et à tous ces journaux qui brodent sur le froid, loin de là. Nous aussi, à Europe, on commence sévèrement à tourner en rond. Pour se distinguer de ses confrères météorologues, souvent prudents dans leurs prévisions, Laurent Cabrol tente des annonces au bluff.
Jeudi, en fin de journée, au pied des Pyrénées, il fera 20 degrés. Voilà. Ça choque quand même.
20 degrés au pied des Pyrénées jeudi, c'est une promesse.
C'est une... J'espère de... Oui.
Je bluffais, j'en ai aucune idée, tu te doutes bien. 20 degrés, j'ai dit ça au hasard, moi. Même le jour, je l'ai tiré à pile aux fesses, alors.
Au point d'atteindre, probablement, c'est un engagement personnel, les 20 degrés au pied des Pyrénées, vendredi soir.
Ah, vous avez dit jeudi soir tout à l'heure.
Ah, pardon, jeudi soir.
Jeudi, vendredi, tout ça, c'est la fin de semaine, quoi. Il est chipoteur, ce Polonais. Bref, la situation est d'autant plus alarmante que quand il fait froid, on a un grand besoin de rire, de se réchauffer les zygomatiques. Or, l'homme le plus drôle d'Europe 1 est en vacances. Je ne parle évidemment pas de Nicolas Canteloup, l'humoriste numéro 2 de la station, mais de l'humoriste numéro 1, Axel de Tarlé. Axou la déconne, qui est parti nous laissant en héritage le plus beau des jeux de mots.
Il retweet un tweet de Donald Trump. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Trois pattes à un canard, c'est pas mal qu'avec Donald.
Voilà, reviens-nous vite, truculent Axelou, insatiable déconneur, qu'on se réchauffe au soleil de ton humour.
Tom Sawyer, c'est l'Amérique.
Oui, merci Maxime, mais t'as lancé le son trop tôt, mais c'est pas grave.
J'ai rien fait, moi.
Non, c'est pas toi, c'est en régie. J'embrasse le réalisateur de cette émission.
C'est dommage, parce que c'était bien comme chute.
Ah, c'était une bonne chute, en fait.
Elle est ratée.
Il y avait une vanne avant. Les choses qui arrivent.
Merci Mathieu, on vous retrouve à midi.
Ah oui, avec à la veille des Césars et des Oscars, la place des femmes dans le cinéma, avec Mathieu Charrier.
Très très bien, bien. Écoutez, à tout à l'heure, et merci à toute la bande des figures libres. À suivre, 8h15. 8h15, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui sera là pour répondre aux syndicats. Laurent Cabrol, vous avez la pression pour la météo.
Oui, mais je confirme. Pour demain soir. Demain
20
soir,
degrés vraiment au pied des Pyrénées.
Entre 17 et 20 degrés. Je suis prudent. Entre 17 et 20 degrés au pied des Pyrénées. Voilà. C'est l'effet de faune qui aura son effet.
Ça, c'est pour Mathieu Noël encore.
Oui, encore pour lui. Bon, les températures aujourd'hui seront des températures encore très basses. Attention, sur la moitié nord, nous sommes entre moins 18 et moins 14 degrés en ressenti, moins 10 à Paris. Vous voyez que cette froidure va persister encore toute la journée, en sachant que la neige est en train de gagner du terrain, mais à une vitesse grand V sur les régions du sud. Ça y est, maintenant, pratiquement la moitié des régions du sud de la Loire sont concernées. Tout le sud-ouest l'est en tout cas. Et ensuite, nous allons aller vers le Gard, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron, et puis les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Autant de secteurs où là, nous allons avoir des chutes de neige, parfois assez conséquentes, entre 5 et 10 cm. Mais la pluie n'est pas très loin derrière, car le redoux pousse et nous aurons donc un temps pluvieux assez rapidement. La neige ne va pas trop tenir longtemps au sol. En ce qui concerne les températures maximales, moins 2 à Verdun, moins 1 à Nancy, 0 à Paris cet après-midi, sous abri, 1 à Caen, 2 à Besançon, 3 à Poitiers, 4 à Lyon, 6 à Nice et 8 à Toulouse.
Merci Laurent Cabrol.
Europe 1, il est 8h. Europe Matin, Maxime Switek.
Et à la une ce matin, un ticket de caisse. Combien allez-vous payer vos pâtes, vos biscuits, votre beurre? Les négociations entre la grande distribution et les industriels s'achèvent dans quelques heures. On vous emmène dans les coulisses dès le début de ce journal. La balle est dans son camp. Que répond la ministre des Transports au syndicat de la SNCF? Elisabeth Borne sera avec nous dans un quart d'heure. Hier soir, les syndicats ont annoncé qu'il n'y aurait pas de grève tout de suite, qu'ils étaient prêts à discuter, à condition que le gouvernement allège sa réforme et oublie les ordonnances. Dans ce journal, le froid est toujours là, mais la neige s'invite aussi. 13 départements vigilants orange ce matin. Nous serons à Biarritz. Il faut créer un nouveau délit en France, l'outrage sexiste et sexuel. C'est ce que propose un groupe de parlementaires pour punir le harcèlement de rue dont les femmes sont victimes. Également sommaire, Mickey adore toujours la France. Disney va investir 2 milliards d'euros dans Disneyland Paris. Et puis ils sont partout, les vélos en libre service. Vous les avez vus débarquer à Lyon, Reims, Lille ou Paris par milliers ces dernières semaines. Mais certaines entreprises jettent déjà l'éponge. Trop de vélos cassés. Ce sera l'enquête du 8h. C'est maintenant que tout se joue. Il reste quelques heures à la grande distribution, aux groupes agroalimentaires et aux agriculteurs. Il leur reste quelques heures pour s'accorder sur les prix qui seront payés aux producteurs et donc sur ce que vous paierez, vous consommateurs, dans les rayons des supermarchés dans les mois qui viennent. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Anne-Laure, on sait que traditionnellement, les derniers jours de février, les derniers jours de tractation sont tendus. Mais là, tous les acteurs avaient signé une charte de bonne conduite cette année. Est-ce que cette charte a changé quelque chose?
Alors, la grande distribution assure que oui, mais pour ceux qui sont de l'autre côté de la table, agriculteurs et industriels, ce n'est pas du tout le cas. C'est le bal des hypocrites, a dit tout à l'heure sur Europe 1 Richard Girardeau, le patron de Nestlé, et à l'ANIA, qui représente les industriels de l'agroalimentaire. On parle de négociations très dures. Valérie Veil-Lancry est en charge de ce dossier.
On nous a reporté des propos d'acheteurs qui indiquaient s'asseoir sur la charte, qui l'ont même déchirée devant les directeurs commerciaux des entreprises. Et on n'avait que 30% de taux de signature il y a 5 jours.
Au final, Anne-Laure, pour ce qui est des prix, à quoi doivent s'attendre ceux qui nous écoutent ce matin?
Alors, ça dépend des familles de produits. Prenez les produits laitiers, par exemple. Là, les industriels ont obtenu des hausses. C'est un peu l'exception, entre 1 et 4% de hausse. Il faut dire que la filière a bénéficié d'un coup de projecteur, explique André Bonnard. C'est le secrétaire général de la Fédération des producteurs de lait.
Comme depuis 2 ans, l'essentiel de la sphère médiatique est occupé par la filière laitière, il n'y a aucun opérateur qui ose entamer la discussion en disant « écoutez, ce que gagnent les producteurs de lait, ce n'est pas le débat, parlons des tarifs ».
On verra si ces hausses concédées aux industriels sont répercutées dans les prix. Ça dépendra des enseignes et des types de produits. Et pour d'autres familles, il y aura probablement des baisses. Je vous cite quelques exemples, les compotes, les confitures ou encore les biscuits. Mais l'heure de vérité, ce sera dans les rayons, dans les jours qui viennent.
Merci Anne-Laure Jumet, le patron de Nestlé, vous en parliez, a annoncé sur Europe 1 ce matin avoir porté plainte contre Intermarché pour une promotion à moins 70% sur des bouteilles de Perrier, alors que le groupe n'avait pas donné son accord. L'autre titre à la une ce matin, c'est la SNCF. CGT, CFDT, Sudrail et UNSA se sont mis d'accord hier soir. Pas de grève dans les jours qui viennent. Ils sont d'accord pour discuter de la future réforme avec le gouvernement. Mais si la concertation se passe mal, si le recours aux ordonnances se confirme, eh bien là, il faudra s'attendre à un mouvement dur. C'est en tout cas la menace que brandit ce matin Éric Meyer de Sudrail.
La problématique de l'ouverture à la concurrence, la problématique des missions de service public, la problématique de la condition de travail des cheminots est centrale. Aujourd'hui, la forme qui est donnée aux concertations, la menace des ordonnances, forcément ne nous convient pas. C'est clair, si le 14 mars, il y a présentation au Conseil des ministres d'un projet de loi d'habilitation par ordonnance. Il y aura dépôt d'un préavis de grève reconductible dans la foulée.
Le secrétaire fédéral Sudrail avec Aurélien Fleureau. Alors la ministre des Transports est-elle prête à faire un geste, notamment sur les ordonnances? Nous lui poserons la question dans moins d'un quart d'heure. Elisabeth Borne sera avec nous en direct sur Europe 1.
Il est 8h04.
Nous venons de vivre sans doute la nuit la plus froide de l'hiver et Laurent Cabrol nous le disait juste avant ce journal. Les températures sont très nettement négatives encore une fois ce matin sur toute la France. On sait que cette vague de froid a déjà fait 4 morts ici, une vingtaine au total en Europe. Et à ce froid, il faut ajouter la neige qui est de retour par le sud. 13 départements sont d'ailleurs en vigilance orange. Des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Alpes-Maritimes. Il a neigé dans le sud-ouest cette nuit, à Pau ou encore à Biarritz. Alex est étudiant biarro et il admire le spectacle.
Là, le jardin tout blanc, même la plage, tout est blanc, ça tient absolument partout. C'est hyper beau. La dernière fois que ça avait neigé comme ça, je crois que c'était le 10 mars 2010. Ça avait juste duré une journée, c'était jeune, mais ouais, je m'en souviens bien. Je pense que je vais déneiger la petite pente que j'ai juste devant chez moi. Et puis surtout que ça tient sur les routes, on espère que ce soit pas trop le bazar. J'habite dans un coin, en fait, il y a vraiment des pentes de tous les côtés, donc c'est un peu compliqué. On n'a pas les pneus à neige, donc... Ça va être un peu la surprise tout à l'heure, on va voir si ça patine ou pas, quoi.
La surprise à Biarritz, propos recueilli par Aude Vernuccio. Un divorce dans ce journal. Le Brexit, c'est aujourd'hui que la première version du traité de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni va être dévoilée. C'est un pavé, 120 pages. Isabelle Horry, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Isabelle, 120 pages pour dire quoi ?
120 pages pour régler le Brexit dans ses moindres détails. Alors vous vous souvenez, en décembre, on avait eu un accord politique. Ben là, c'est le document juridique. C'est comme un vrai divorce. Hein. D'abord, on se met d'accord sur les grands principes. Exemple, quel système de garde pour les enfants. Mais ensuite, il faut écrire noir sur blanc quel jour, quelle heure, où et qui paye pour les trajets. Ben, ce document, c'est ça. Et du coup, ben, oubliez les sourires de la fin de l'année parce que dans les détails, il y a des sujets de tension. Le plus important, c'est la frontière entre les deux Irlandes. C'est la pomme de discorde. Et en décembre, il avait été évacué avec des formulations un peu vague. Là, le texte va préciser comment la libre circulation va rester possible. Les Britanniques promettent une frontière virtuelle. Les Européens, eux, veulent pouvoir contrôler en vrai les marchandises et les animaux vivants. Bruxelles envisage des solutions techniques qui forcément vont plaire plus à Dublin qu'à Londres. Bref, il reste des tas de choses à régler. Et pourtant, en parallèle, c'est déjà tendu aussi sur l'après-divorce. Les Européens proposent une transition jusqu'à fin 2020. Les Britanniques voudraient rester un peu plus longtemps. No, leur a répondu hier le négociateur Michel Barnier.
No, Isabelle Horry, merci en direct de Bruxelles, Isabelle. L'actualité à l'étranger avec d'abord la Syrie, trêve humanitaire impossible dans l'enclave de la Ghouta. Le cessez-le-feu quotidien de 5 heures décrété par les Russes n'a absolument pas tenu hier. Et justement, un rapport de l'ONU ce matin affirme que la Corée du Nord a vendu à la Syrie du matériel pour fabriquer des armes chimiques malgré l'embargo. Un rapport dévoilé dans la presse américaine. Aux États-Unis, Donald Trump voit loin. La prochaine élection présidentielle aura lieu dans un peu plus de 1000 jours, mais le président a déjà nommé hier son directeur de campagne, un certain Brad Parscale, qui avait déjà fait partie de l'équipe Trump en 2016.
Europe 1, il est 8h07.
Comment lutter contre le harcèlement de rue? Comment lutter contre ces sifflets, ces remarques désobligeantes que subissent les femmes? 5 députés rendent aujourd'hui un rapport sur la question. Leur idée, c'est de créer un nouveau délit, l'outrage sexiste et sexuel, Ève Roger.
Ne dites plus harcèlement de rue, mais outrage sexiste. Et pour les rapporteurs, c'est un propos, un comportement ou une pression à caractère sexiste ou sexuel dans l'espace public. Alors on ne parle pas là des agressions sexuelles comme une main aux fesses déjà réprimées par la loi, mais bien de ces petits gestes déplacés, sifflements, remarques obscènes, regards insistants ou encore le fait de suivre une femme dans la rue. Et ce sont ces attitudes qui empêchent certains d'entre nous de sortir en toute sérénité, explique Élise Fageles, députée En Marche et membre de la mission.
Quand on drague de manière lourde et insistante, quand on suit une fille, quand on l'embête, quand on la siffle, ça se reconnaît. Des comportements qui mettent mal à l'aise les femmes, où elles se sentent humiliées, où elles ne se sentent pas légitimes dans l'espace public, où elles sont obligées d'adopter des stratégies d'évitement.
Alors ce sont les agents de la nouvelle police de sécurité du quotidien qui pourraient être chargés de prendre en flagrant délit les auteurs, pourquoi pas aussi les agents de sécurité des transports et la police municipale, avec à la clé une amende immédiate de 90 euros qui pourrait grimper jusqu'à 350 si elle n'est pas réglée sur place.
Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, puisque nous parlons de harcèlement et de violences faites aux femmes, un mot ce matin de la une de Libération. Plus d'une centaine d'actrices, de réalisatrices s'engagent. Maintenant, on agit, c'est le titre de leur tribune. Elles lancent en fait un appel aux dons pour aider les victimes d'agressions sexuelles et de viols à payer leurs frais d'avocat. On en parlera tout à l'heure à 9h avec deux des signataires. En bref, un violeur en série recherché depuis 30 ans, arrêté près de Maubeuge dans le Nord. Cet homme a été confondu par son ADN. Il pourrait être impliqué dans une quarantaine d'affaires. Il doit être déféré dans la journée devant le parquet. Je vous le disais dans les titres, 25 ans après l'ouverture de Disneyland Paris, le groupe américain annonce un investissement gigantesque. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Maxime.
Directeur de la rédaction des Échos, Nicolas, le patron de Disney, annonce donc 2 milliards d'euros d'investissement.
Oui, le plus gros investissement de Disney dans notre pays depuis l'ouverture de Disneyland Paris en 92. Des milliers d'emplois vont être créés. Disney ne cite pas de chiffres précis, mais enfin pour donner une idée, un précédent investissement d'un demi-milliard d'euros avait créé 5000 emplois. Le projet va monter en charge à partir de 2021. Il sera donc prêt pour les JO de 2024. Aujourd'hui, Disneyland Paris emploie 16 000 personnes. C'est le premier employeur sur un même site en France devant Airbus à Toulouse.
Et c'est la première destination touristique en Europe.
Alors ce site représente à lui seul d'ailleurs 6% des recettes touristiques de toute la France. Depuis son ouverture, Disneyland Paris a attiré 320 millions de touristes, dont 170 millions d'étrangers. Ils ont dépensé 80 milliards d'euros sur notre sol. L'un des enjeux, c'est qu'au lieu de rester un jour et demi, il reste 3 jours. L'ouverture des magasins parisiens le dimanche est un facteur clé pour les retenir. Avant, ils filaient à Londres. Paradoxe, Disney ne gagne pas d'argent à Paris, mais c'est une excellente affaire pour la région et pour l'attractivité de la France.
Et c'est donc à lire ce matin dans les Échos. Merci Nicolas Barré. Vous les avez vus fleurir dans les villes, ils sont jaunes, oranges ou vert fluo. Les vélos en libre service, sans attache, qu'on prend et qu'on pose n'importe où. 5 sociétés sont implantées en France depuis quelques mois, mais une de ces sociétés, chinoise, Gobi Bike, qui avait installé ses vélos à Paris, à Lyon, Reims, vient d'annoncer qu'elle mettait fin à son activité en France. Le concept de free floating, autrement dit les vélos sans attache, est-il viable? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Laure, cette société chinoise a jeté l'éponge. Trop de vandalisme.
Oui, exactement. Il y a eu trop d'incivilité. Des vélos retrouvés cassés par dizaines sur les trottoirs, explique la société, qui dit ne pas avoir d'autre solution que d'abandonner. Mais cette réponse ne convainc pas les spécialistes. Ce n'est pas une spécificité française. Il y a des dégradations ailleurs, en Belgique, en Suisse ou en Italie. Et c'est un critère que les sociétés prennent en compte au départ. Le problème de cette entreprise chinoise Gobi Bike, c'est qu'elle a voulu aller trop vite, être la première sur le marché français avec peu de personnel, et elle s'est installée sans autorisation de la ville de Paris. Or, pour que le modèle fonctionne, il faut qu'il y ait un cahier des charges, un accord passé avec la mairie. C'est ce qu'explique Pierre Cerne, le président du Club des villes et territoires cyclables.
On ne peut pas juste arriver comme ça quelque part sans en parler à personne, avec des vélos parfois à la limite de la sécurité pour les usagers et sans payer de droit à l'occupation de l'espace public, sans aucune règle pour l'usager qui peut le laisser n'importe où, n'importe comment. Ça s'encadre, et donc dans ces conditions-là, ça va se développer beaucoup, beaucoup en France et du coup aider à la pratique du vélo davantage.
Et pour réguler l'implantation de nouvelles entreprises, la ville de Lille, par exemple, demande aux opérateurs une redevance de 11 euros par vélo, et cela a découragé justement plusieurs sociétés.
Alors Laure, est-ce que ça marche pour les autres sociétés de vélos partagés qui sont implantées en France?
Oui, clairement, parce qu'elles ont mieux préparé leur atterrissage en fait. Metz, Tours, Bordeaux, Angers disent que ces sociétés qui sont implantées chez elles ont des vélos plus solides avec du personnel pour assurer la maintenance, mais il manque encore clairement aujourd'hui un cadre juridique au secteur.
Mais est-ce que ça c'est prévu par le gouvernement?
Oui, absolument. C'est en cours de discussion dans le cadre de la loi sur les mobilités, avec cet été un gros chapitre sur le vélo qui obligera les sociétés à publier une charte de bonne conduite validée par les communes, qualité et nombre de vélos, emplacement autorisé et sanctions pour les cyclistes qui se garent mal. Avec votre abonnement de bus, vous pourrez peut-être faire aussi 5 déplacements à vélo par mois, ou à l'avenir, avec une seule carte d'abonnement, louer n'importe quel vélo en libre service. En fait, avec ces mesures notamment, le gouvernement espère multiplier par 3 les déplacements à vélo d'ici à 2030.
Enquête de Laure d'Autriche. Merci Laure. 2 infos en sport dans ce journal, avec d'abord les Herbiers, club de national qui s'est débarrassé de Lens hier soir en quart de finale de Coupe de France, victoire au tir au but. Ce soir, PSG-OM. Par ailleurs, dans le feuilleton, Neymar, alors que le PSG disait hier qu'il y avait une petite chance de voir le Brésilien contre le Real la semaine prochaine, eh bien le père de Neymar a été beaucoup moins optimiste. Lui parle d'une indisponibilité d'au moins 6 semaines.
Europe 1, il est 8h13.
À suivre la ministre des Transports, Elisabeth Borne, en direct avec nous. Que répond-elle au syndicat de la SNCF? À tout de suite.
Europe 1.
8h15, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Maxime Switek, vous recevez ce matin la ministre des Transports.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Merci beaucoup à vous d'être là ce matin en direct dans ce studio avec nous. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, qui aura une question pour vous dans un instant. Mais d'abord, la SNCF, évidemment, les syndicats ce matin vous tendent en quelque sorte la main. Pas d'appel à la grève pour l'instant. Ils sont d'accord pour discuter avec vous. Mais si au 15 mars, vous maintenez votre projet de réforme par ordonnance, là, il y aura une grève dure. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ?
Écoutez, moi je leur réponds que depuis le début, depuis lundi, là, j'ai annoncé qu'on allait ouvrir 2 mois de concertation. Cette concertation, elle va démarrer dès demain avec chacune des organisations syndicales. Donc la concertation démarre.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour faire un geste et pour dire, attendez, par exemple, hein, attendez, les ordonnances, on verra. Ou est-ce que c'est fait, c'est écrit, ça passera par ordonnance ?
La méthode, c'est qu'il y a à la fois urgence à avancer et en même temps, la volonté du gouvernement, c'est la concertation. Il va y avoir 2 mois de concertation, il va y avoir 3 mois de débat parlementaire, mais les deux vont avancer parallèlement. Et c'est la concertation qui va nourrir le débat parlementaire. Et on l'a dit, à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, alors on mettra dans la loi les dispositions à la place des ordonnances.
Mais puisqu'il est déjà écrit qu'il y aura des ordonnances, puisqu'il est déjà écrit que vous souhaitez réformer le statut de cheminot, qu'est-ce qu'il y a à négocier dans ces concertations ?
Je le redis, à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, on le mettra dans la loi à la place des ordonnances. Je voudrais peut-être aussi revenir sur pourquoi on fait cette réforme. On fait cette réforme pour un meilleur service public ferroviaire, parce qu'on a tous besoin d'un transport ferroviaire performant. On fait aussi cette réforme pour avoir une SNCF plus efficace, moins cloisonnée, qui ait tous les atouts dans un secteur qui va s'ouvrir à la concurrence. Et on fait cette réforme pour avoir des cheminots bien préparés, bien formés au métier de demain. Une fois qu'on a dit ça, moi j'ai proposé 4 thèmes de concertation. On va débattre pendant 2 mois de l'amélioration du service public ferroviaire. Ensuite, il y a 3 thèmes de concertation. Le premier, c'est l'ouverture à la concurrence. Comment elle va se passer? Dans quel calendrier? Quelles garanties les cheminots vont avoir en cas de transfert? On a un deuxième sujet, c'est l'organisation de la SNCF. On veut une SNCF plus unifiée et en même temps plus performante, moins cloisonnée. Et puis le troisième sujet, c'est la modernisation sociale du secteur, avec effectivement la question de l'arrêt du recrutement au statut. On a dit à l'avenir, on ne recrutera plus au statut à la SNCF.
À l'avenir, ça
veut dire quand ?
Échéance ?
À l'avenir, justement, ça fait partie de la concertation.
Ça fait partie de la concertation. Encore un mot sur les syndicats. Hier, Gérald Darmanin disait, votre collègue du gouvernement disait qu'il ne croyait pas à un mouvement dur. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les syndicats de la SNCF ne sont pas suffisamment puissants pour aller vers un mouvement dur ?
Personne n'a intérêt à un mouvement dur à la SNCF. La méthode, c'est la concertation. Je l'ai dit, on a 3 thèmes de concertation. On a un
vous
thème dont on va débattre. Et donc, engageons la concertation dès demain.
Lundi, le Premier ministre a expliqué aux Français que les Français payaient de plus en plus cher pour un service public, la SNCF, qui marche de moins en moins bien. Sauf qu'hier, le patron de la SNCF a présenté ses résultats, des résultats records, bénéfices multipliés par 2, fréquentation en hausse très nette. Présenter la SNCF comme une entreprise en perdition, ça ne tient plus, ça ne tient pas, Elisabeth Borne.
La SNCF a présenté des bons résultats, il y a une partie de choses qui sont des résultats comptables. On a vu en 2017 que la fréquentation a augmenté. Il y a eu plus de monde dans les trains. Donc ça montre que les Français, ils veulent un service public ferroviaire performant. Donc c'est une bonne nouvelle. Ces résultats ne règlent en rien les problèmes du secteur. Donc des financements publics de plus en plus importants, les contribuables qui payent toujours plus pour le service public ferroviaire, une dette qui ne cesse de gonfler, hein, 3 milliards d'euros de dette supplémentaire par an.
Mais la dette n'a pas de rapport avec le service que rend la SNCF aux Français.
La dette, c'est une menace pour la SNCF. Et donc, les gouvernements précédents disaient il n'y a pas de problème avec la dette. Nous, on dit il y a un problème avec la dette. Il faut s'en occuper parce que c'est une menace pour le service public ferroviaire. Et puis par ailleurs, c'est aussi parce qu'il y a cette dette qui n'arrête pas d'augmenter qu'on a insuffisamment mis d'argent dans le réseau. Donc nous, on dit, il faut investir dans le réseau. On va mettre 36 milliards d'euros dans les 10 prochaines années pour remettre à niveau le réseau. C'est considérable. C'est 50% de plus que ce qu'on a fait dans les 10 dernières années. Il faut vous rendre compte, ça veut dire 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans pour améliorer le réseau existant.
Mais quand on voit encore une fois les résultats présentés hier, on peut se demander si vous ne surjouez pas l'urgence à réformer.
Écoutez, je pense que les Français, ils ont besoin d'un service public ferroviaire plus performant. Quand on a des trains qui arrivent en retard, c'est du stress pour aller au travail le matin. Quand vous êtes à Limoges, vous mettez 25 minutes de plus pour aller à Paris qu'il y a 30 ans, on voit bien qu'il y a des choses qui doivent changer. Et je pense que les cheminots, ils savent aussi qu'il y a des choses qui doivent changer. Quand il faut remonter une information parce qu'il y a un problème, par exemple, sur une caténaire et qu'il ne se passe rien, ils voient qu'il y a des choses qui doivent changer. Quand ils sont face à des voyageurs énervés après la panne de Montparnasse, ils voient qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc, ne disons pas que rien ne doit changer. Je pense que c'est vraiment pas rendre service à la SNCF. On va avancer, on doit avancer rapidement et c'est ce qui va faire l'objet de la concertation dans les deux mois qui viennent.
Je reviens à la méthode et aux ordonnances. Le gouvernement y a déjà eu recours pour la réforme du Code du travail et on se souvient de l'argument qui était utilisé par la majorité l'an dernier. Cette réforme était écrite noir sur blanc dans le programme d'Emmanuel Macron. En quelque sorte, les Français, en les lisant, avaient voté pour cette réforme du Code du travail. Là, j'ai encore cherché ce matin, je suis allé récupérer le programme d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas un mot sur la SNCF. Vous assumez de réformer par surprise ?
On ne réforme pas par surprise, on a fait un diagnostic, on a mis tous les sujets sur la table, c'est le rapport de Jean-Cyril Spinetta, et moi je le redis, on veut avancer vite, on veut avancer dans la concertation. À chaque fois qu'on aura avancé sur un sujet dans la concertation, le résultat viendra dans le projet de loi, à la place des ordonnances, et on aura le débat au Parlement.
L'urgence, c'est le statut de cheminot ?
L'urgence, c'est une SNCF bien préparé pour l'ouverture à la concurrence, c'est des cheminots bien préparés, c'est un réseau mieux entretenu, c'est de tous ces sujets-là qu'on va discuter avec les syndicats.
Alors vous parlez du réseau sur les petites lignes, le Premier ministre l'a annoncé, vous n'y touchez pas, pas aujourd'hui en tout cas, mais qui va payer ? Qui va payer pour leur maintien ? Qui va payer pour leur réfection dans les années qui viennent ? Ce sont les régions ou l'État ?
L'État est engagé dans les contrats de plan État-région à mettre 1,5 milliard d'euros sur ces petites lignes, les engagements seront tenus.
Et les régions ?
On est engagés ensemble, l'État et les régions, à mettre 1,5 milliard d'euros sur ces lignes. Et je voudrais le redire, on emploie le terme de petites lignes, je pense qu'il est impropre. C'est des lignes qui sont très importantes pour beaucoup de Français.
En opposition liées à grande vitesse.
Justement, mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas que les lignes à grande vitesse. Il y a des lignes qui sont très importantes tous les jours pour beaucoup de Français. Dans ces lignes, vous avez par exemple la ligne Nantes-Bordeaux. Donc, vous vous rendez compte que sur la ligne Nantes-Bordeaux, on met 55 minutes de plus aujourd'hui que ce qu'on mettait il y a 40 ans. Vous avez des lignes dans les plaines d'Alsace. C'est des lignes très importantes. Donc, moi, je voudrais que demain, ce soit des RER, des lignes qui transportent beaucoup de voyageurs et qui évitent d'avoir beaucoup de voitures dans la périphérie de Strasbourg.
Elisabeth Borne, est-ce que vous avez lu ce matin Le Canard enchaîné ?
Ah non.
Non ? Alors je vais le lire pour vous. D'accord. En quelque sorte. Le Canard raconte ce matin comment la SNCF surfacture systématiquement ses services aux régions et comment elle gagne de l'argent comme ça. Elle prend des commissions sur tout, dès qu'il faut repeindre un train régional, etc. Elle prend une commission. Est-ce que vous voulez aussi mettre votre nez, entre guillemets, votre nez là-dedans ?
Je pense que c'est important qu'on sorte de ce qui est un peu une méfiance aujourd'hui sur les comptes de la SNCF dans leurs relations avec les régions. Et donc ça aussi, il faut qu'on ait une SNCF transparente. Et c'est d'autant plus important qu'il va y avoir une ouverture à la concurrence. Donc il faut que les régions aient confiance dans la SNCF.
Et confiance en Guillaume Pepy. Hier, Marine Le Pen disait qu'il fallait commencer par se débarrasser du patron de la SNCF, se débarrasser de Guillaume Pepy.
C'est pas un sujet de personne. On est en train d'engager une réforme importante pour le service public ferroviaire. L'État va avancer. On a demandé à la SNCF d'avoir aussi un nouveau projet d'entreprise. On avance ensemble pour un meilleur service public ferroviaire, une SNCF plus performante, efficace, moins cloisonnée et pour des cheminots bien préparés.
Ça veut dire que dans quelques mois, quand la SNCF ne sera plus qu'une société unique, entre guillemets, que tout aura été réunifié comme vous le souhaitez dans cette réforme, Guillaume Pepy sera toujours le patron de la SNCF ?
Guillaume Pepy, le Premier ministre l'a dit, il a la confiance du gouvernement, mais ce n'est pas un sujet de personne. Je pense qu'il faut être conscient que ce dont on est en train de parler, c'est très important. C'est très important. Il y a plus de 4 millions de Français qui prennent le train tous les jours. Ils veulent avoir des trains qui marchent, qui arrivent à l'heure, moins de stress pour aller au travail. Donc c'est de ça dont on est en train de parler.
Et pas de Guillaume Pepy pour l'instant, on ne sait pas s'il sera toujours le patron.
C'est pas un sujet de personne.
C'est pas un sujet pour vous. Emmanuel Dutheil, je le disais, le chef du service économie est dans ce studio avec nous. Emmanuel qui a une question sur un tout autre sujet.
Oui, alors vous n'avez pas lu Le Canard enchaîné, mais est-ce que vous avez regardé la météo ce matin, Elisabeth Borne ?
Oui, il y a une météo, un grand froid.
Voilà, Laurent Cabrol nous annonce un épisode neigeux qui partirait du sud jusqu'au nord, avec peut-être de la neige demain sur Paris. Cette fois, Vous êtes prête? On ne sera pas bloqué sur la N118, on ne sera pas bloqué à l'aéroport de Nice?
Les services de l'État, dès qu'on a des alertes météo, ils sont mobilisés. Et vraiment, moi je voudrais leur rendre hommage, hein, parce que quand on a des épisodes neigeux comme ça, ils travaillent à déneiger, évidemment toute la journée, toute la nuit.
Est-ce que donc, du coup, vous avez retenu les leçons de la dernière fois où on a eu des portions de route bloquées, on a eu des gens qui ont passé des heures entières et des nuits entières dans leur voiture? Écoutez, c'est pas acceptable là aussi pour les utilisateurs. Vous vouliez que pour le train tout fonctionne bien, pour la voiture c'est parfois compliqué aussi dans ces moments-là.
À chaque fois qu'on a un épisode de ce type-là, on en tire toutes les expériences. Et donc,
et qu'est-ce
on a...
qu'on fera mieux alors ce coup-ci?
Oui, qu'est-ce qui a été fait depuis?
Je ne vais pas rentrer dans le détail de la RN 118. Il y a eu des voies qui ont été fermées. Ce n'était pas forcément la bonne idée. En tout cas, dès qu'on a un épisode neigeux, les agents de l'État, ils sont sur le terrain avec des engins de pour-saler, des engins pour
là,
déneiger.
Pour,
et donc, quand on prépositionne les engins de salage et de déneigement, vous avez vu que la dernière fois, et je sais que ce n'est pas agréable pour les transporteurs routiers, mais on empêche que les camions viennent se mettre sur les voies rapides avec le risque de bloquer la circulation. Donc, les agents seront prépositionnés, le salage va se faire, les engins vont tourner toute la journée et toute la nuit pour permettre aux automobilistes de circuler. Et s'il le faut, on leur demandera aussi de prendre des précautions comme la dernière fois. Quand il tombe 10 ou 15 cm de neige, il faut éviter de prendre sa voiture.
Ce coup-ci de voie.
Ça dépendra de la météo. Franchement, ça dépendra de la météo. Si on a besoin, effectivement, de dire aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture, on le fera.
Et on verra ça dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, ministre des Transports, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.
Il est 8h27.
À suivre sur Europe 1 jusqu'à 9h, la revue de presse de Marion Lagardère qui nous parlera notamment de la science du bonheur. C'est important le bonheur et c'est à lire aujourd'hui dans l'Express. Le dossier de circuit court avec Anne Le Gall, elle nous dira qu'une agriculture avec moins de pesticides est possible aujourd'hui. Et puis Philippe Vandel, juste avant 9h, pour l'info média du jour, elle reviendra sur le marché des jeux vidéo qui est devenu le premier marché culturel en France. Je n'oublie pas, bien sûr, Nicolas Canteloup. A tout de suite. Laurent Cabrol, on vous écoute pour la météo.
La neige s'étend sur toute la moitié sud. Elle va très vite d'ailleurs. Ces chutes de neige maintenant se progressent. Alors je note les départements rapidement en vigilance orange. Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Hérault, la Lozère, l'Aveyron, le Gard, l'Ardèche, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Var. Tous ces départements sont ou seront concernés à la fois par la neige, par le verglas, parce qu'on n'en parle pas, mais pas suffisamment. Mais le verglas est là. Et par le vent aussi, qui souffle très fortement dans toutes ces contrées. La douceur va arriver très vite aussi dans le courant de la nuit et nous aurons donc rapidement toutes ces chutes de neige qui vont fondre. En ce qui concerne la moitié nord, eh bien c'est le grand froid. C'est pour la dernière journée, promis juré, que nous allons vivre. Nous allons vivre cette journée de froid dur. Attention, cette nuit, il neigera probablement assez fortement sur les régions de la moitié nord. Et Paris sera concerné. Hein, pourrait y avoir à la fois de la neige et du verglas. Voilà pour l'essentiel. Notez quelques températures pour aujourd'hui. Moins 2 sous abri à Verdun, moins 1 à Nancy, 0 à Paris, 1 à Caen et à Reims, 2 à Besançon, 3 à Poitiers, 4 à Clermont, 5 à Lyon, 6 à Nice et 7 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Il est 8h30. Europe 1, Maxime Switek.
Et l'actualité, c'est avec vous Hélène Zelani. À la une, c'est vraisemblable un violeur en série qui a été arrêté dans le Nord.
Oui, un homme d'une cinquantaine d'années en apparence sans histoire qui a été confondu grâce à son ADN. Il pourrait être impliqué dans au moins 22 affaires de viol et d'agression sexuelle dans la région de Maubeuge ces 30 dernières années. Il sera présenté ce matin au parquet, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement. Puis ce sera la présentation au juge d'instruction après 48 heures de garde à vue au cours desquelles ce père de famille a reconnu l'essentiel des faits. Il s'agit d'un homme de 56 ans, jusqu'ici au-dessus de tout soupçon, casier judiciaire vierge, connu et reconnu dans sa petite commune de Pont-sur-Sambre près de Maubeuge. Il a été identifié après une agression sexuelle commise au début du mois sur une adolescente de 16 ans en Belgique. Sa voiture et son immatriculation française ont été captées par une vidéosurveillance. Et c'est grâce à ces éléments que la police judiciaire lilloise a pu identifier celui qu'elle appelle le violeur de la Sambre, un véritable prédateur sexuel qui sévissait le plus souvent au petit matin avant de se rendre à son travail. Les comparaisons ADN ont confirmé les soupçons des enquêteurs. L'homme a le même profil génétique que celui identifié dans des affaires de viol et d'agression sexuelle commises donc depuis près de 30 ans dans la région de Maubeuge et jamais résolue. A noter Hélène que l'enquête pourrait être élargie dans les prochains jours à une quarantaine d'autres dossiers non élucidés en France et en Belgique.
Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. L'affaire de cet homme de 28 ans accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans. Le parquet de Pontoise décide finalement d'ouvrir une information judiciaire pour viol, fait passible de 20 ans de prison. Le statut des cheminots n'est pas négociable. C'est ce qu'affirme ce matin le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Il assure que les syndicats sont gonflés à bloc. Une éventuelle date de grève doit être décidée le 15 mars. Ce matin sur Europe 1, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a précisé que les discussions avec les syndicats commenceraient dès demain. Des flocons dans les rues de Pau ou sur la plage de Biarritz. 13 départements du sud de la France en alerte orange, neige et verglas. Ce matin, un quatrième décès a été enregistré hier dans l'Ain. Une femme de 93 ans retrouvée devant sa maison de retraite. Selon un rapport de l'ONU, la Corée du Nord aurait vendu à la Syrie du matériel pour fabriquer des armes chimiques et cela malgré l'embargo. Rapport dévoilé ce matin par la presse américaine. Un boulanger du Puy-de-Dôme gagne son combat contre le géant Facebook. Le tribunal de Clermont-Ferrand donne raison à Philippe Serami. Une fausse page dénonçait la pseudo-insalubrité de son commerce. Facebook est condamné à lui venir en aide pour retrouver l'auteur de cette usurpation d'identité. Mais le boulanger reste amer.
Facebook sont surtout condamnés parce qu'ils n'ont pas réagi à temps. Ils ont tellement laissé traîner que maintenant ça leur tombe sur le nez. La prochaine étape, c'est d'amener devant la justice le responsable de tout ça pour que lui, il réponde de ses actes et que lui, il paye les pots cassés. Hein, parce que moi, je les ai payés suffisamment. Et on aura peut-être enfin une enquête sérieuse. Parce que bon, on a perdu des clients, on est une toute petite affaire. Quand on veut détruire une entreprise alimentaire, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est pourri, quoi. Moi, je veux dire, je suis contrôlé tous les trimestres par le laboratoire départemental vétérinaire. Donc, moi, j'ai rien à me reprocher. Simplement, cette personne a voulu jeter le discrédit sur notre entreprise, histoire de dire, faut pas aller là, quoi.
Le boulanger Philippe Serami, joint pour Europe 1 par Mélanie Nunes. Le foot avec la suite des quarts de finale de la Coupe de France. Nouveau choc PSG et Marseille. Les Parisiens privés de Neymar pour au moins 6 semaines. C'est ce qu'affirme le père du Brésilien. Ça veut dire qu'il ne jouera pas contre le Real le 6 mars en Ligue des Champions. Autre rencontre ce soir, le petit club de National de Chambly qui accueille Strasbourg. Hier, un autre club de 3e division, les Herbiers, s'est qualifié pour les demi en éliminant Lens.
Ah, bravo les Herbiers et merci Hélène Zélani.
Europe 1. Europe Matin, Maxime Switek.
La revue de presse sur Europe 1. Bonjour Marion Lagardère.
Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour
dans
à
la
tous.
Presse ce matin, le bonheur en question.
Et oui, existe-t-il une formule pour être heureux? C'est l'Express qui s'interroge et fait sa couverture sur la science du bonheur. Alors on cherche des réponses du côté évidemment des neurosciences et de la chimie du bien-être dans nos cerveaux. Il y a aussi la formule magique de Mo Gaudat au cadre de Google qui s'est reconverti en spécialiste de la joie de vivre. Si nous ressentons de l'inquiétude, de la peur ou de l'anxiété, dit-il, dans 99% des cas, eh bien c'est parce que notre cerveau bug. Voilà, d'après lui, il s'agit donc de faire une mise à jour de notre logiciel interne parce que ce ne sont pas les événements qui nous rendent malheureux, dit-il, mais la perception que nous en avons. Une théorie qui plaît, visiblement, puisqu'il a vendu 200 000 exemplaires de son livre. Autre message, autre approche, dans le numéro mars-avril du magazine Happiness, avec un Z, qui nous dit que le bonheur naît du sens que l'on donne à sa vie. Alors encore faut-il définir le sens. Entre autres réponses, il y a celle de la psychologue Émilie Esfahani-Smith, offrir son aide aux autres et donner de soi gratuitement.
Et puis Marion, le bonheur c'est aussi un marché. Le magazine Society a mené l'enquête.
Oui, au sujet de l'engouement pour le développement personnel. Une façon de vivre qui séduit de plus en plus de cadres et d'entrepreneurs, écrivent François Blé et Thomas Pitrel. Pour trouver le bonheur, on se fait coacher. Par exemple, Emmanuelle, présidente d'une agence de communication parisienne, elle est allée jusqu'à dépenser 20 000 euros en un an pour s'offrir les services de coach.
Ah,
pourquoi? Eh bien parce qu'on sait tous plus ou moins ce qu'il faut faire, dit-elle, mais si personne ne nous pousse, eh bien finalement, on ne fait rien. Alors en 20 ans, explique Society, on est passé d'une seule école de formation au coaching en France à 100 aujourd'hui. 20 000 personnes le déclarent comme activité professionnelle et dans les librairies, le rayon développement personnel fait 53 millions d'euros de chiffre d'affaires en septembre dernier. Par exemple, le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, a même dépassé le million d'exemplaires vendus. Une mode qui, comme d'autres, va peut-être passer, mais la quête de sens, elle, n'est pas Pardon, je bug, n'est pas prête de disparaître parce que nos sociétés n'ont plus d'objectifs collectifs, conclut le philosophe Yanis Constantinides. Il n'y a plus de grands discours politiques, plus de religion, plus de famille et surtout pas de définition du bien général, du bien commun. Voilà une enquête à lire sur le filon du bonheur dans Society.
Et alors, en jetant un œil sur les quotidiens, on trouve quelques modestes raisons de se réjouir.
Et par exemple, les 2 milliards d'euros investis par Disney dans l'agrandissement du parc de Marne-la-Vallée, c'est la bonne nouvelle du jour en une des Échos qui y voit la création de plusieurs milliers d'emplois. L'Opinion salue de son côté le beau cadeau de Mickey et Minnie à Emmanuel Macron. Oui, la France redevient attractive, se réjouit le Courrier Picard. Longue interview également du PDG de Disney dans le Figaro. C'est un vote de confiance vis-à-vis de la France, affirme Bob Iger. Et puis, autre thème en une de Libération où l'on se réjouit de la fin de la loi du silence en matière de violence sexuelle. Actrice, cinéaste, humoriste, elle s'engage, nous dit le journal qui publie l'appel signé à 3 jours de la cérémonie des Césars par Sandrine Bonner, Isabelle Carré, Virginie Efira, Julie Gayet, Agnès Jaoui, Diane Kruger, Vanessa Paradis, Sonia Roland ou encore Muriel Robin. 6 pages pour revendiquer un présent plus doux pour celles qui souffrent et un avenir apaisé pour nos filles et pour nos fils, un sujet qui est aussi en une des Un Rock avec ce titre L'espoir féminin.
Et cet appel lancé dans Libération, on en reparlera tout à l'heure à partir de 9h avec 2 des signataires. Et puis, dans la presse, il y a aussi cette annonce venue d'Allemagne où la justice contraint les villes de Stuttgart et Düsseldorf à interdire les véhicules diesel les plus polluants.
C'est un symbole qui trouvera forcément de l'écho, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. De l'écho peut-être même jusqu'à Paris, dit-il, parce qu'effectivement, en France aussi, l'étau se resserre, note Les Échos qui rappellent qu'une trentaine de recours déposés par des particuliers sont en attente de jugement. En cause, l'immobilisme de l'État face au pic de pollution. Un reportage qui contraste avec l'édito de David Barou, très remonté contre le lobby écolo. Et oui, la puissance du lobby écolo qui peut crier victoire, dit-il, mais quand nos sociétés font des choix si tranchés sans débattre, la planète est-elle gagnante ? Oui, la planète est-elle gagnante ou plutôt les poumons de nos enfants sont-ils gagnants ? Reportage dans le dernier numéro de Science et Avenir, direction les Alpes, avec cette photo saisissante prise en surplomb de la ville de Chamonix, ville que je n'ai pas vue d'ailleurs au premier coup d'œil, puisque ce qui ressort, eh bien, c'est précisément l'épais couvercle de pollution marronnasse qui la recouvre. Non, il ne fait pas bon respirer au pied du Mont Blanc, titre le magazine qui parle d'urgence sanitaire. Premier responsable, le trafic routier et les 600 000 camions qui empruntent le tunnel chaque année, étouffant en azote et en particules fines les 160 000 habitants de la vallée. D'après une enquête de Santé publique France, cette pollution est responsable de 8% des décès dans la vallée, soit 85 personnes par an. Dossier à lire dans Science et Avenir.
Enfin, il fait toujours la une, c'est le salon de l'agriculture.
Et oui, on passe de bien respirer à bien manger et chacun met en avant ses héros locaux. La région est la reine du salon, titre La Voix du Nord. Même chose dans l'Alsace. Pour le Républicain Lorrain, c'est le Grand Est qui fait saliver les visiteurs. Personnellement, j'avoue que c'est en lisant la double page de l'Est républicain et son jarret braisé que j'ai eu un petit creux tout à l'heure sur les coups de 2h30, 3h.
Jarret, oui, à 2h30,
voilà,
c'est bien.
Ouais, oui, mais c'est bon, c'est délicieux, de temps en temps. Le bien manger qui est en une aussi de l'hebdomadaire Le 1, avec des pistes pour manger local. Et puis c'est aussi le thème du hors-série de l'Humanité. Cuisinons l'époque en couverture. Le chef Thierry Marx, un Marx et ça repart. Oui, c'est facile, mais ça marche quand même. Et à l'intérieur, 30 recettes pas chères et anti-gaspi, bien mangées. Donc, peut-être un de ces bonheurs simples, justement, dont parle l'anthropologue Marc Auger dans le dernier numéro de l'Express que je vous citais tout à l'heure. Parce que le bonheur, dit-il, c'est quelque chose qui résiste à l'époque, à nos terreurs, à l'âge, à la maladie. Autrement dit, des bonheurs malgré tout. Mais alors, me direz-vous, quels sont donc ces bonheurs malgré tout ? Eh bien, c'est à vous de les définir, car ce sont des bonheurs privés, des joies personnelles, individuelles. Mais pour peu que vous y pensiez un peu, franchement, conclut Marc Auger, vous les verrez se dessiner sur l'écran de votre mémoire.
Question grave, Marion, vous êtes heureuse ?
Je me suis dit que j'avais pas mangé de jarret depuis très longtemps, mais je pense que ça pourrait
ça peut aider
me donner un petit coup de
les
boost.
Bonheurs simples. Voilà. Marion Lagardère pour la revue de presse. Merci Marion, à demain.
Europe 1, 8h41, Maxime Switek.
Et vous le savez, depuis lundi, tous les jours à 8h40, sur les coups de 8h40-41, on retrouve Anne Le Gall pour le dossier du jour de Circuit Court. Bonjour Anne.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Alors tout à l'heure dans Circuit Court, vous mettrez en direct du Salon de l'Agriculture, vous mettrez le cap sur une émission consacrée à l'agriculture avec moins de pesticides, l'agriculture raisonnée.
Voilà, et pas question d'entendre dans cette émission juste de beaux discours théoriques. Non, nous allons évoquer très concrètement le cas de Benoît Biteau qui sera avec nous en direct.
Qui est Benoît Biteau ?
C'est lui, c'est ce paysan résistant, c'est l'auteur de ce livre qui vient de paraître, on le voit en photo sur la couverture, dans un champ avec une vache. Son histoire n'est pas commune, il est devenu agriculteur à 40 ans en reprenant l'exploitation familiale en Charente-Maritime. Et là, gros bouleversement car il a décidé de renoncer au modèle d'agriculture intensive défendu par son père pour passer à l'agriculture raisonnée. Gros virage pour lui car fini les pesticides et engrais de synthèse, fini aussi le labour qui abîme les micro-organismes à la surface de la terre. Il a aussi planté des arbres au milieu de ses champs de céréales pour retenir l'eau et bonne surprise, c'est qu'au bout de 3 ans, sa ferme est devenue aussi productive qu'avant.
C'est donc une preuve qu'on peut être rentable tout en respectant davantage l'environnement, voilà. Mais ça ne fonctionne sans doute pas partout, sinon ça se saurait.
Eh ben vous avez raison Maxime, le bio ne représente que 6% des surfaces agricoles en Europe et l'agriculture raisonnée peut prendre plusieurs années avant d'être rentable. Mais cet exemple, et il y en a d'autres, c'est la preuve qu'un modèle alternatif est possible avec à la clé des produits de qualité pour la santé du consommateur. Et ça, les Français en sont demandeurs. Le chiffre d'affaires du bio a bondi de 12% l'année dernière avec un engouement pour les légumes, pour les fruits, mais aussi de plus en plus pour les œufs bio. C'est ce qu'a pu constater François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, chez Yves de la Fouchardière, le directeur des fermiers de Loué. On a donc aussi changé les pratiques.
Les poules sont nourries avec des céréales produites localement. Depuis plus de 10 ans, on n'a pas eu un seul lot de poules qui a été traité avec des antibiotiques. La surface du parcours des poules est beaucoup plus grande qu'ailleurs puisqu'on a 10 mètres carrés par poule. C'est extrêmement important, mais les poules savent utiliser le parcours extérieur. Il y a une obligation aussi de donner des coquilles d'huîtres aux poules l'après-midi pour avoir des belles coquilles bien solides le lendemain, la poule fabriquant sa coquille pendant la nuit. Il y a quand même beaucoup de garanties de données.
Et la demande est là, cette entreprise n'arrive à fournir que 70% des commandes.
Justement Anne, c'est compliqué de se passer de l'agriculture intensive pour nourrir toute la planète.
Alors c'est une question que nous poserons à notre deuxième invité, Marc Benoît, qui est agroéconomiste à l'INRA. Parce qu'il y a débat sur le sujet, certains soutiennent qu'on peut obtenir exactement les mêmes rendements avec l'agriculture raisonnée. C'est une réflexion passionnante que vous pourrez suivre tout à l'heure avec nos invités en direct du Salon de l'Agriculture.
Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h15 avec vous Anne Le Gall, avec Sébastien Guyot, Isabelle Saporta, Cyril Ariel, bref toute l'équipe de Circuit Court. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, il est 8h43.
Et dans l'équipe de la matinale, en attendant, il y a Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Europe 1, 9h15, Maxime Switek.
À la une ce matin, 72 départements en plan grand froid. 4 personnes sont mortes ces derniers jours. Aujourd'hui, la neige gagne du terrain. 13 départements du sud sont en alerte orange. Un violeur en série pourrait être impliqué dans au moins une vingtaine de viols dans la région de Maubeuge ces 30 dernières années. Confondu par son ADN, il doit être déféré devant le parquet dans la matinée. Un chiffre qui tombe à l'instant. L'INSEE revoit à la hausse son chiffre de la croissance pour 2017. Croissance de 2% en France l'an dernier. C'est ça, c'est la meilleure performance française depuis 6 ans. Visite surprise de Nicolas Hulot au Salon de l'Agriculture. Le ministre de la Transition écologique a attendu la fermeture hier soir pour y aller. Il a rencontré la présidente du premier syndicat agricole, la FNSEA. Et puis le foot, nouvelle rencontre PSG-OM ce soir, mais en quart de finale de la Coupe de France. Cette fois, le PSG privé de Neymar pour au moins 6 semaines. C'est en tout cas ce qu'affirme le père du joueur brésilien.
Europe 1.
Nicolas Canteloup.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, le best-of. Laurent Wauquiez participe aujourd'hui à un déjeuner organisé par une association proche de Sœur Emmanuel. Or Laurent Wauquiez, vous cherchez à prouver depuis des années, contre les dires des proches de Sœur Emmanuel, que vous avez souvent rencontré la religieuse.
Madame Julie, Monsieur Cohen et tous les autres, permettez-moi que je vous dise. Yallah. Yallah à tous, comme dirait ma chère amie Sœur Emmanuel. Manu d'ailleurs, comme je l'appelais. Oui, nous étions de grands amis. Ne me regardez pas comme ça, monsieur Antoban. Nous étions copains comme cochons. Enfin, copains comme khalouf, comme on dit en arabe. Car je parle arabe, monsieur Cabron, ne vous en déplaise. Nous étions nous entendions très bien. Non, je n'aime pas, mais pas Kim Jong-un. Nous nous entendions très bien avec mm-hmm. Frère Emmanuel. Ouais. On se faisait des soirées DVD devant la comédie musicale Les Dix Commandements.
Oui, bah écoutez, on a un petit peu de mal à l'imaginer tout ça, hein, quand même.
Ah, vous ne me croyez pas?
Pas vraiment.
Mais écoutez, libre à vous. Écoutez, je vais méditer sur les paroles de sagesse de mon ami Gandhi.
Ça y est, Gandhi, Gandhi maintenant.
Gandhi, oui, j'ai bien connu Gandhi. Je l'ai connu en Inde. D'ailleurs, je parle indien. Et comme Gandhi le disait, Namaste Samosa, Vishnu Poulet Tandoori. Et je n'ai jamais oublié ces paroles, Monsieur Cohen.
Mais arrêtez maintenant, ça devient ridicule, hein, Monsieur.
Ridicule. Ridicule. Jean-Paul II, il est ridicule peut-être. Mon ami Jean-Paul. Jean-Paul que j'ai connu en Pologne, oui, en Pologne. Il parlait polonais comme moi, il me disait souvent, Laurent, Zobrivska vodka goulash leshvaleza. Ça veut dire, Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas.
La neige, on en revient à la neige, est omniprésente sur les chaînes info. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour, vous travaillez-vous sur CNews?
Oh putain, c'est dur le journalisme en ce moment. La semaine dernière, on était en boucle sur les inondations. Cette semaine, c'est la neige. On n'est plus sur des chaînes info, on est des chaînes météo. Sur CNews, c'est ce qu'ils vont me faire sur CNews. Ils veulent que je me mette les robes d'Evelyne Delia.
Oh là là, faites pas ça. Mais d'ailleurs, il est peut-être temps de prendre votre retraite, Jean-Pierre.
Ça va pas ou quoi? Oh, file-moi une robe, je fais la météo. Je peux faire Cabrol aussi. Allez, allez. Il y a de la neige, c'est pas folichon. Putain, j'ai interviewé Mitterrand et je finis en Cabrol.
Oui, écoute, je t'emmerde, Jean-Pierre, parce que c'est moi la star de la matinale. Hein. C'est moi le patron, excusez-moi d'être un peu trivial. Je m'excuse auprès de mes camarades autour de la table, mais chers auditeurs, la philo, à l'heure qu'il est, l'actu dans les kiosques, ce qu'il y aura dans Bonjour la France, tout le monde s'en fout. Hein. Les gens veulent savoir si la neige va tenir, il n'y a que moi qui ai la réponse. Enfin, plus exactement, je fais super semblant de la connaître.
Quel aveu, merci Laurent Cabrol. On va évoquer maintenant la disparition du fondateur d'un empire, Ingvar Kamprad, qui est décédé. Vous connaissez tous son entreprise, Ikea.
Obsèque rapide, bonjour. Dites donc, pour une fois, que c'est pas un chanteur ou une chanteuse française, je suis soulagé. Allez.
Mais Frédéric Mitterrand, vous vouliez lui rendre hommage, hein, au patron
oui,
d'Ikea.
Oui, si je peux prendre un petit billet. Il n'y a pas de petit décès, vous savez. Comme dirait Axel de Tarlet. Trie fort. Tu es parti, Ingvar, machin, avec tes meubles immontables. Tu es un peu l'inventeur du casse-tête chinois-suédois. Homme adoré des femmes, détesté des hommes. Ah, tu nous en auras flingué des samedis à se balader dans tes allées de magasins au lieu de glander devant le foot. Tu nous en auras niqué des dimanches à tenter de monter tes étagères Billy au nom imprononçable. Ta gluche, ta crimson prume, ta blum, ta croquichmute. Pas de bol, ton cercueil est fait maison. T'es pas prêt d'être dedans. Ah, saleté de trucs, ça ne rentre pas.
Mais qu'est-ce que vous faites, Frédéric? Vous êtes quand même pas en train de mettre le patron d'Ikea dans son cercueil?
Mais... J'aime gêner. Pourquoi elle rentre pas? Cette merde de cheville en plastique. Non, pas celle d'Ingvar, rentre saloperie.
Ah, la cheville du...
Marre. Je vais lui organiser une crémation nature, moi. Ça va être vite vu.
Ah bon, allez. On va vous laisser, Frédéric. C'est bon, ouais. c'est bon. Allez, on termine avec cette info. Les rats prolifèrent dans Paris et le sujet a refait surface hier après la diffusion d'une vidéo qui a été prise par un éboueur et qui montrait des centaines de rats dans les poubelles. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, Madame Murky, la gardienne, Monsieur Antoine, Monsieur Cabrol et bonjour à toutes les Parisiennes et les Parisiens. Bonjour, permettez-moi également de saluer Ratatouille et ses frères ainsi que ses sœurs. Écoutez, vous avez raison. Il faut prendre le problème des rats à bras le corps. Nous allons, et j'ai donc pris la décision, de fermer les égouts sur berge et de verbaliser les rats qui stationnent trop longtemps au même endroit dans les rues de Paris.
Vous êtes sûre de la méthode, là, Anne Hidalgo?
Écoutez, Madame Julie, ne me faites pas cette offense. C'est une méthode que j'ai utilisée avec succès pour chasser les automobilistes de la ville de Paris. Mais avant, les automobilistes, vous me l'accorderez, proliféraient. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Si j'ai réussi à désautomobiliser Paris, je peux très bien réussir à dératiser Paris. Tenez, on va aussi créer des pistes cyclables dans les égouts que fréquentent les rats pour fluidifier le trafic.
Enfin, c'est absurde. Personne va aller faire du vélo dans les égouts. Enfin, c'est quoi cette histoire?
Je ne vous permets pas de dire que mes décisions sont absurdes. Mais franchement, ouvrez les yeux. Personne ne fait du vélo dans Paris et ça ne m'a pas empêché de faire des pistes cyclables partout.
C'est vrai qu'il n'y a personne. Ouais.
Par contre, depuis, on a deux fois moins de voitures. Non, faites-moi confiance. Je sais faire avec les espèces nuisibles que j'ai envie d'éradiquer.
Nicolas Canteloup, que l'on retrouvera demain, bien évidemment, juste avant 9h sur Europe 1.
Il est 8h52.
À suivre, l'infomédia du jour avec Philippe Vandel qui s'installe dans ce studio avec à côté de lui Daphné Burki et sa doudoune gigantesque. À tout de suite.
Triple doudoune. On est
triple doudoune. Triple doudoune. Ah oui, carrément.
Très important.
Carrément, à tout de suite.
Europe Matin.
Il est 9h05. Maxime Switek.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Maxime.
L'infomédia du jour, c'est
une tendance et un record. Le chiffre d'affaires en France des jeux vidéo a atteint un sommet. 4,3 milliards d'euros, une hausse de 18% par rapport à 2016, qui avait déjà été un record. Et alors le jeu progresse sur tous les tableaux, le hardware et le software. T'as les mots savants. Vous savez qu'il y a trois façons de jouer. Mm-hmm. De jouer sur le PC, sur le mobile, le téléphone ou sur une console de jeu. Les consoles, c'est le hardware, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Et trois lancements ont été réussis, la Nintendo Switch, la Xbox One X de chez Microsoft, j'aurais à le dire, et la nouvelle PS4 Pro de chez Sony qui continue à se vendre. Alors vous allez dire, c'est bien beau, mais les jeux...
C'est bien beau.
Eh bien... En France, comme dans le monde, ce sont les grands classiques qui se retrouvent en tête des ventes, quelle que soit la plateforme. Première place, le jeu de foot FIFA 18. En plus, ça change bien parce que chaque année, on change de joueur, on change de maillot. Ah oui. Donc, il faut racheter un nouveau jeu. L'année prochaine sera FIFA 19. Ensuite, le jeu de guerre Call of Duty. Mais ouais, c'est bien pensé. Plus un jeu d'aventure. Troisième, The Legend of Zelda. Et enfin, Assassin's Creed Origins. Jeu d'aventure qui se passe cette année, ça change tout le temps, dans l'Égypte antique. Jeu créé par le français Ubisoft. Ubisoft qui fait une magnifique année 2017. Ils ont ouvert un nouveau studio à Bordeaux, ils ont résisté à la tentative d'OPA de Vivendi et en plus d'Assassin's Creed qui leur a apporté 28 millions en un an, ils continuent de cartonner avec Tom Clancy et même Mario et les lapins crétins. Vous connaissez les lapins crétins?
Ah bah oui, mon fils adore.
Bien sûr, bah formidable. Depuis 3 ans, pourquoi je vous en parle? Car depuis 3 ans, le jeu vidéo est la première industrie culturelle du monde en termes de chiffre d'affaires. Elle dépasse les 100 milliards de dollars à l'échelle de la planète. Et en France aussi, le jeu vidéo occupe la première place. 4,3 milliards d'euros, je l'ai dit. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de l'édition du livre est de 3 milliards d'euros. Celui du cinéma, moitié moins, 1 milliard et demi. Et celui de la musique, seulement 500 millions d'euros. Bref, on n'a pas fini de parler de jeux vidéo.
Et alors de quoi on parle à 9h30 dans Village Média?
De tout à fait autre chose. On va recevoir Pascal Swetens, alias Pascal le grand frère qui règle des conflits familiaux quand les gens se détestent, et le journaliste suisse André Crétenon qui va nous parler d'un vote qui pourrait bouleverser la Suisse et modifier le paysage audiovisuel français. Il ne voudrait peut-être plus payer la redevance.
9h30, Village Média. Bonjour Daphné Burki.
Salut. Alors nous on change d'ambiance. Oh, j'ai un chat.
Bah alors,
vas-y, cache ta voix.
Non mais j'ai un chat.
On règle la voix.
Ça y est, il est parti. Je ne sais pas où il est passé.
Pauvre bête.
Dans Bonjour la France, aujourd'hui, on va parler avec nos auditeurs de ces femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. On les appelle les child free. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, est-ce que vous comprenez ce choix? Est-ce que vous l'approuvez? Ou au contraire, est-ce que vous essayez de tout faire pour avoir un enfant? On attend vos réactions. Et notre invité, c'est le comédien Raphaël Personnaz.
Et on rappelle l'heure?
Ah bah c'est de 10h à midi en direct, on est là tous les jours, il n'y a pas de vacances.
Pas, évidemment, pas de vacances. Merci beaucoup Daphné Burki, merci Philippe.
9h30.
Bah oui, 9h30. Ah oui, on l'a dit, bien sûr, on l'a dit. Merci à tous les deux. Dans un instant, l'actualité, évidemment, et puis la culture. Nous allons parler de cette centaine d'actrices, de personnalités qui lancent un appel aux dons pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elles ont prévu de porter un ruban pendant la cérémonie des Césars, ce sera vendredi soir. Pour en parler, la réalisatrice Toni Marshall et la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, seront avec nous en studio. A tout de suite.
Dans 2 minutes, 9h.
La météo qui vous est proposée par Laurent Cabrol.
Un petit zoom sur Paris qui a été certainement l'une des villes les plus froides, en tout cas pour la capitale en elle-même, c'est presque un record. Il a fait moins 7 degrés à Paris intramuros cette nuit, sous abri, et moins 10 en banlieue parisienne. Et en ressenti, nous sommes entre moins 13, moins 14, moins 15 degrés. C'était vraiment une nuit très froide sur la capitale. Je reviens maintenant à notre journée dans les régions du sud avec l'arrivée de la neige. Elle est arrivée ce matin par Biarritz au petit matin à 5h, et maintenant elle progresse, elle a pratiquement toute la moitié sud de la France France et sous la neige, ou sous des chutes de neige plus exactement, avec des vigilances orange, il y en a 13 au total. Dans le nord, c'est le froid qui va persister aujourd'hui encore, mais attention, la neige ne va pas rester dans le sud, elle va passer la moitié nord et elle va basculer cette nuit et la nuit prochaine, elle va basculer vers les régions septentrionales. En ce qui concerne, et ce sera mon dernier mot, la suite, je suis très 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 pessimiste. Voilà, nous avons là de la neige, ensuite la pluie va arriver et nous n'avons pas fini, chers amis, de subir l'hiver 2017.
Eh ben merci quand même Laurent Cabrol.
2018.
2018.
Ah, il a dit 2017.
Effectivement, 2018, vous avez raison, vous avez toujours raison, Julie.
Europe 1, il est 9h. Maxime Souhaitec.
À 9h, l'actualité, c'est avec vous, Jean-Philippe Ballas.
Et la réforme de la SNCF, des syndicats gonflés à bloc, c'est le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui l'affirme ce matin. Pas de grève pour l'instant, mais l'échéance du 15 mars, après le Conseil des ministres, pour se décider. D'ici là, c'est le temps de la concertation. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, va recevoir les syndicats. Elle était ce matin notre invitée sur Europe 1.
Moi, je leur réponds que depuis lundi, là, j'ai annoncé qu'on allait ouvrir 2 mois de concertation. Cette concertation, elle va démarrer dès demain avec chacune des organisations syndicales. Donc, la concertation démarre.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour faire un geste et pour dire, attendez, par exemple, les ordonnances, on verra. Ou est-ce que c'est fait, c'est écrit, ça passera par ordonnance?
On veut avancer vite, on veut avancer dans la concertation. À chaque fois qu'on aura avancé sur un sujet dans la concertation, le résultat viendra dans le projet de loi à la place des ordonnances et on aura le débat au Parlement.
La ministre Elisabeth Borne, il est présenté ce matin au parquet. Il s'agit manifestement d'un violeur en série. Dossier hors norme, l'arrestation dans le Nord d'un homme d'une 50aine d'années confondu par son ADN. Un père de famille en apparence au-dessus de tout soupçon, mais qui pourrait être impliqué dans plus d'une 20aine d'affaires de viol au cours de ces 30 dernières années. Négociations tendues, très tendues entre distributeurs et industriels. C'est la dernière ligne droite, plus que quelques heures. Important pour vous et moi, consommateurs en bout de chaîne, c'est maintenant que les prix se décident. Et de l'avis de tous, ou presque ça se passe mal, ce ne sont pas les hypermarchés qui font la loi en France, prévient le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Pas content non plus le patron du géant Nestlé, Nestlé France, Richard Girardeau. Il était en direct du Salon de l'agriculture ce matin sur Europe 1.
C'était la charte signée lors du bal des hypocrites où tout le monde a signé une charte, mais personne ne la respecte depuis. Si je vous cite Intermarché avec sa promotion à moins 70...
Vous parlez du Nutella ou de vos marques ?
Nutella et Perrier. Perrier était concerné par cette opération.
C'est-à-dire oui. Qu'ils ont vendu au-delà de ce qu'ils auraient dû faire ?
Oui, très clairement, oui. C'est pour cette raison qu'on les assigne auprès du tribunal actuellement. Enfin, ça a été fait dans les 15 derniers jours.
Le patron de Nestlé France au Salon de l'agriculture avec Raphaël Duchemin, c'était ce matin sur Europe 1.
Merci beaucoup, c'était Jean-Philippe Ballas.
Europe 1, 9h03. Maxime Switek.
Au sommaire de la prochaine demi-heure sur Europe 1, maintenant, on agit. C'est le titre de la tribune publiée ce matin dans le journal Libération et signée par une centaine d'actrices et de personnalités qui lancent un appel aux dons pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elles porteront, ces personnalités, un ruban blanc à la cérémonie des Césars. Ce sera vendredi soir. Pour en parler avec nous dans ce studio, la réalisatrice Tony Marshall. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Et la présidente de la Fondation des Femmes, Marie-Cécile Maillefer. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous également.
Anne-Cécile
Maillefer. Ben oui, Anne-Cécile, bien sûr. Si je me trompe de prénom pour commencer, ça part mal. Anne-Cécile, pardonnez-moi. Notre invité également, autre invité tout à l'heure, ce sera un écrivain qui a publié des textes cultes comme Paradis, Femme, La guerre du goût. Son nouveau roman s'appelle Centre. Il sort demain, publié aux éditions Gallimard. C'est Philippe Solers qui sera avec nous. Et puis 9h25, vous retrouverez les coups de cœur cinéma de Mathieu Charrier, Lady Bird, film européen, et Call Me By Your Name, deux films avec la nouvelle star d'Hollywood. Il s'appelle Timothée Chalamet, il a 22 ans et il est déjà nommée aux Oscars qui auront lieu dimanche.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Ah, elle aurait dû y aller.
un extrait de la chanson Dommage du duo Big Flo et Oli, lauréat d'une victoire de la musique cette année, celle de la chanson originale de l'année, chanson qui est consacrée, dommage, à la lutte qui dénonce les violences faites aux femmes. Et justement, je lis cette tribune ce matin dans Libération. Nous sommes inquiètes, mal accompagnées, les femmes sont vulnérables face à la justice, il est temps d'agir. Ensemble, soutenons celles et ceux qui œuvrent concrètement pour qu'aucune n'ait plus jamais à dire MeToo. Donnons. Voilà un extrait de la tribune publiée par 130 personnalités du monde du cinéma, comme vous, Tony Marshall, comme Julie Gayet, Vanessa Paradis, Anna Mouglalis, etc. Mais aussi des médias, des personnalités des médias, des personnalités du sport. La campagne s'intitule donc « Maintenant, on agit ». Votre objectif, Anne-Cécile Maillefert, il se calque sur le fonctionnement américain du mouvement Time's Up. Est-ce que vous pouvez rappeler justement quel est ce mouvement ?
Alors, le mouvement Time's Up, le mouvement Maintenant, on agit, ils sont... assez similaire dans le sens où ce sont des femmes qui sont sur le terrain et qui galèrent très concrètement pour avoir accès à la justice et qui ont fait appel à des personnalités publiques. Donc Time's Up, c'était des actrices américaines. Et puis en France, on est allé voir des actrices, des réalisatrices, des personnalités du monde des arts et du spectacle pour nous aider à faire porter le message. Parce que en France, celles qui ont dit MeToo, c'est pas que des personnalités du cinéma, c'est aussi toutes les femmes qui ont... traversé des moments difficiles, qui ont été agressées, victimes de harcèlement sexuel et qui aujourd'hui ont besoin d'aide pour aller porter plainte, pour être dans l'action, pour vraiment faire en sorte que leurs droits soient enfin respectés, reconnus.
Et c'est à ça que cet argent va servir, l'argent que vous souhaitez collecter dans les semaines qui viennent, c'est à aider notamment les associations qui viennent en aide à ces femmes ?
Voilà, c'est un appel à don. Donc on est vraiment dans une autre étape par rapport aux dénonciations sur les réseaux sociaux. Là, on est vraiment dans l'action. C'est on veut collecter des dons, on veut collecter tout de suite, là maintenant, 1 million d'euros. Pourquoi ? Parce que les associations qui sont sur ce soutien judiciaire pour aider les femmes à aller en justice sont débordées. L'association contre les violences faites aux femmes au travail a même dû fermer son standard téléphonique. Elles ont besoin, là tout de suite maintenant, d'un surplus d'aide financière pour pouvoir continuer à aider extrêmement efficacement ces femmes qui ont besoin justement d'aide. Et donc les personnalités nous aident aujourd'hui à rendre visible cette problématique et j'espère à vous convaincre de faire des dons sur fondationdesfemmes.org.
Et parmi ces personnalités, il y a vous, Tony Marshall, réalisatrice, oui. C'était une évidence ?
Ah oui, moi quand je dois avouer qu'il y a encore peut-être une semaine, je ne connaissais ni Anne-Cécile ni la Fondation des Femmes, et que tout d'un coup quand elle m'a expliqué de quoi il s'agissait, j'ai vraiment trouvé que c'était parfaitement ce dont nous avions besoin là maintenant, parce que on a eu une libération de la parole, il y a eu des balances MeToo, il y a des etc. Maintenant, si vous voulez, si ça continue à se déverser sans pouvoir être cadré, sans pouvoir aller en justice, sans pouvoir avoir des jugements qui eux-mêmes vont faire jurisprudence, qui donc, si ça fait jurisprudence, je pense, au bout d'un moment, vont faire réfléchir un certain type de comportement dans des entreprises, dans des tas d'endroits, parce qu'il ne s'agit pas de cinéma, là. Nous, le cinéma, on cherche à pouvoir donner une visibilité à quelque chose
qui
sert.
Vous êtes, entre guillemets, une caisse de résonance toute là,
voilà.
Comme ça.
Voilà. Mais je pense, vous savez, que Time's Up, moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce que j'ai lu, si c'est vrai, c'est qu'évidemment, Hollywood, c'est mondial, c'est repris par les médias, mais elles avaient fait Time's Up parce qu'elles ont reçu une lettre de 150 agricultrices qui leur ont dit « Nous, on nous écoute jamais, on vous soutient, allez-y pour nous ». Donc c'est un peu ça, petite échelle, nous ne sommes pas Hollywood, mais essayez d'avoir ce ruban blanc au César, essayez de parler à la radio, de dire « faites un don parce qu'on a besoin de renforcer financièrement ces associations pour pouvoir cadrer, aider et que ça aille en justice, que ça cesse d'être, que ça cesse. En tout cas, que ça ne soit pas que de la dénonciation, parce qu'on ne s'en sortira pas avec la dénonciation. »
Anne-Cécile Maillefert, quand on prend le journal Libération ce matin, en une et dans les pages intérieures, ce sont des femmes que l'on voit, mais il n'y a pas que des femmes qui ont signé cet appel.
Absolument. Les femmes, elles sont en premier plan sur la photo parce que c'est elles les premières qui ont eu le courage de dénoncer des choses. Voilà. Maintenant, les hommes, la société, on la changera si les femmes et les hommes ensemble évoluent. On peut pas uniquement être sur un changement des mentalités chez les femmes. Donc, évidemment, les hommes sont absolument inclus dans l'appel, dans les signataires de l'appel, et ils sont évidemment tout à fait en capacité de... Enfin, en tout cas, nous, on accueille favorablement tous les dons, qu'ils viennent d'hommes ou de femmes, avec grand plaisir.
Et ce petit ruban que vous m'avez tendu et que vous portez toutes les deux, qu'est-ce qu'il dit ? Quand est-ce qu'on le verra ?
Alors ce ruban blanc, juste pour un petit point historique, ce ruban blanc, en fait, il a, c'est devenu le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes de manière mondiale dans les années 90 au Canada, suite au premier meurtre de masse de... Donc c'était un homme, en fait, qui est rentré dans une école d'un Polytechnique Canada et qui a tué, en fait, qui a séparé les femmes et les hommes dans une pièce et qui a tué une quinzaine de femmes en leur reprochant d'être des femmes et d'être dans une école d'ingénieurs. Donc c'était un crime vraiment... Ouais, désolé, hein, c'est très très triste. Et donc ensuite, ça a été Florence Moreno en France a continué à porter ce ruban blanc. Et donc nous, c'est devenu le symbole de la Fondation des femmes parce que c'est une manière de dire les violences faites aux femmes, ça doit s'arrêter. C'est un symbole de solidarité, un ruban. Et on est très très heureuse et très fière de voir qu'elle sera portée le soir des Césars.
Vous le porterez, vous serez au César vendredi?
Absolument, je serai au César vendredi, je le porterai. Et les Césars se sont associés à cette initiative en proposant à tous ceux qui vont assister à la cérémonie de porter ce ruban blanc. Le feront-ils pas? It's a free country. Mais en tout cas, voilà. Et il ne s'agit pas, on ne leur demande pas de parler, on ne leur demande pas de... Voilà, nous on est là pour expliquer pourquoi cette visibilité est nécessaire, pourquoi il faut que finalement, allez sur le site, faites un don. S'il vous plaît, faites un don parce que... Je le répète à chaque fois, mais parce que ça fait partie des arguments qui m'ont troublée. J'ai appris qu'il y avait environ 45 millions à la SPA par an pour les animaux. Mmh. Et on a du mal à avoir 250 000 euros pour les associations de femmes. Donc, il y a un moment donné, on se dit, il y a un petit problème. Résolvons ce problème. À 1 million, ça sera déjà formidable.
1 million d'ici le Festival de Cannes, c'est ça l'objectif, si je ne m'abuse?
Oui, on fera le point avant le Festival de Cannes.
Avant le festival. On rappelle, Anne-Cécile Maillefer, une dernière fois, comment faire un don pour ceux qui le souhaitent?
Il suffit d'aller sur fondationdesfemmes.org et de vous laisser aller.
Ah ben voilà, fondationdesfemmes.org.
Laissez-vous aller, voilà, absolument.
Le don est déjà fait, le don déjà fait, Tony Marchand.
Moi, mon don est déjà fait, absolument. Et vraiment, que je crois que c'est quelque chose qui... Il faut qu'on soit hommes et femmes ensemble dans cette affaire-là. On a tous à y gagner ensemble. Je le crois très profondément.
Merci à toutes les deux. On était ravis de vous donner la parole. On avait envie de vous donner la parole ce matin sur Europe 1. Merci Anne-Cécile Maillefer.
Merci à vous,
Tony Marchal. Dans un instant, avec nous dans ce studio en direct, Philippe Solers pour son nouveau livre. À tout
Europe 1,
de suite.
Il est 9h11. Europe Matin, il est 9h14 jusqu'à 9h30, Maxime Switek.
Et dans ce studio, nous accueillons Philippe Solers. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là en direct avec nous pour nous présenter ce livre qui sort demain chez Gallimard. Ça s'appelle Centre. Nous allons en parler avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Maxime.
Mais avant cela, pour tous les deux et pour toutes celles et ceux, pour toutes celles et pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, un petit cadeau. Un petit cadeau, une version acoustique d'un tube Julien Doré, Coco Caline. Ces cadeaux, c'est pour vous. Coco Caline, version acoustique, extrait du nouvel album de Julien Doré intitulé « Vous et moi ». Julien Doré, qu'on va recevoir d'ailleurs ici dans la matinale avec Patrick Cohen, ce sera la semaine prochaine, le 8. Son dernier album, Esperluette, s'est écoulé, Julie, à 500 000 wow. exemplaires. Plus personne ne vend 500 000 exemplaires d'un disque
Plus
aujourd'hui.
Plus personne ?
Non, sauf Julien Doré, voilà. Philippe Solers. Il y a un an, avec Beauté, vous nous emmeniez dans un temple grec. Vous publiez demain Centre. Centre, c'est le titre de votre livre aux éditions Gallimard. Et là, nous sommes dans un cabinet de psychanalyse. C'est Nicolas Carreau, notre spécialiste littéraire, qui nous présente Centre et qui nous présente également Philippe Solers.
Mais oui, Philippe Solers, vous sévissez depuis votre premier roman Une curieuse solitude en 58. Et donc, il y a 60 ans, bon anniversaire.
Merci.
Depuis, il y a eu Paradis ou Femme. Vous n'avez cessé de jouer avec les formes littéraires, d'inventer des nouvelles façons de dire, si possible en évitant les pièges d'une narration trop figurative, d'une histoire trop linéaire. Et il est donc inutile d'essayer de résumer ou de raconter la plupart de vos livres. Ce sont des expériences de lecture, une conversation entre vous et votre lecteur. Vous êtes un personnage aussi, vous jouez avec votre image d'écrivain, d'ailleurs vous êtes parfois considéré comme l'archétype du grand écrivain français, mais vous en êtes conscient, puisque vous surjouez ce rôle pour vous en moquer, et vous vous amusez de ça, d'ailleurs vous vous amusez de tout, y compris dans votre dernier livre, donc Centre. C'est un romancier français, tiens, qui parle de sa compagne Nora, 40 ans, psychanalyste, comme celle qui partage une partie de votre vie depuis 50 ans, d'ailleurs Julia Kristeva, psychanalyste elle aussi, mais c'est un hasard. Nora, elle, dans le livre, c'est la petite fille de Leonard Bernstein. Elle parle parfois de ses passions à son compagnon qui nous les rapporte. Mais vous évoquez, le narrateur évoque aussi Shakespeare, David, celui de la Bible, la Révolution française, les corsaires avec un détour en Chine ou des réflexions sur le don de sperme par correspondance ou de Welbeck. Bref, vous parlez de tout, de l'époque. Tout tourne en orbite autour du narrateur qui saisit comme ça les idées, les observations quand elles passent à sa portée. C'est lui, ce fameux centre du titre. Qu'est-ce que vous entendez par centre avec ce titre énigmatique?
Centre, ça veut dire qu'on peut être à peu près partout à la fois sur le cercle, ou si vous préférez, Blaise Pascal vous explique que Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Il faut lire Pascal, parce que là, vous avez quelque chose sur le centre. Autrement dit, c'est quelque chose que j'attribue à la psychanalyse, c'est de pouvoir se saisir de n'importe quel sujet, et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça ne manque pas, et d'en tirer les conséquences sexuelles qui s'imposent. Si vous me dites qu'il n'y a pas moyen de s'y retrouver dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la découverte essentielle de Freud, Freud est un aventurier, c'est ça qui m'intéresse. Il fait une découverte. Laquelle ? L'hystérie.
Eh ben, vous parlez de l'hystérie dans ce livre.
Mais je ne parle que de ça. Et donc, si vous voulez qu'on parle très longuement de la façon dont Freud a découvert l'hystérie, lui seul, et c'est absolument merveilleux parce que on est dans une société qui est, je crois, de plus en plus hystérique.
Vous êtes soumis, vous, à la psychanalyse, Philippe Solers?
Absolument pas, mais ça m'a passionné tout le temps. C'est-à-dire que ma femme est psychanalyste, vous l'avez dit, donc elle ne me parle pas de ses cas, parce qu'elle entend beaucoup de choses très tordues sur son divan, mais elle m'a dit une fois la chose suivante. C'est curieux, j'ai beaucoup de patients et de patientes qui se plaignent de ne pas pouvoir se rappeler le paragraphe qu'ils viennent ou elles viennent de lire. Là, je me suis dit, voilà. Là, c'est ça. Parce qu'en effet, le problème de la numérisation, du digital, etc. Alors non, en revanche, j'ai été passionné par la lecture de Freud et j'ai très bien connu le français qui a ranimé tout ça, Lacan, qui était un ami et qui ne parlait jamais pour ne rien dire, ce qui était tout à fait extraordinaire de la part d'un être humain.
Vous donnez même une définition très claire, je trouve, de la psychanalyse. Je vous cite, vous êtes fou ou vous êtes folle, mais tout vous interdit d'en prendre conscience. Vous-même, vous évitez d'en savoir trop long à ce sujet. On va vous le démontrer raisonnablement. Voilà ce que dit Nora, qui a vécu sa propre saison en enfer. Donnez-moi vos phrases, je vais essayer de vous tirer de votre bourbier infantile.
Allongez-vous et dites-moi ce qui vous passe par la tête. Racontez-moi votre dernier rêve, s'il vous plaît. Non, pas celui-là, l'avant-dernier. Excusez-moi, reprenez.
Vous étiez arrêté. Voilà. Comme un test,
c'est ça
pour
la question qui est passionnante. C'est que les gens parlent, ils communiquent, ils textotent. Mais enfin, c'est un îlot très étrange où ils peuvent parler en étant sûrs d'être écoutés. Parce que, attention, est-ce que c'est bien? Oui, non, vous ne m'avez pas dit la même chose il y a la dernière séance. Alors vous avez changé. Et donc, c'est essayer de retrouver sa mémoire, c'est-à-dire son intériorité profonde, dont tout vous éloigne quand vous êtes en train de communiquer.
Nicolas parlait à l'instant de l'enfance.
Essentiel.
Et ça revient beaucoup dans votre livre. Il y a des passages assez dérangeants, je dois dire, sur l'inceste. Où vous semblez plutôt parler d'initiation, de choses comme ça, et de banaliser l'inceste. Je me trompe ?
Oui, complètement, parce que s'il n'y avait pas la question de l'inceste, il n'y aurait pas non plus la découverte psychanalytique. Je vous apprends pas grand-chose, j'espère quand même, et que donc c'est à l'horizon des fantasmes récurrents de l'humanité. Alors tous les garçons, après tout, c'est vérifiable, ont plutôt envie de tuer leur père et de prendre sa place auprès de la mère. Et pour les filles, c'est différent, etc. Donc tout ça, vous voyez, votre question prouve que tout ça pourrait être remis sur le tapis avec ce qui vous est raconté sans arrêt sur les prédations sexuelles, les agressions sexuelles, les viols. Je crois que les analystes ces temps-ci reçoivent les visites qu'ils reçoivent, toutes les femmes viennent se plaindre au fond de viol. Peut-être qu'elles ont été, elles sont violées depuis la plus haute antiquité, et c'est très bien qu'elles en parlent. Mais tout ça nous rapproche du centre, c'est-à-dire de là où on peut l'expliquer.
Et on revient au titre de votre livre. Une toute petite question, Nicolas.
Vous embrassez toujours tous les grands enjeux du monde et de la société avec une sorte de nonchalance, comme ça, comme si tout était dérisoire. Vous écrivez avec ce même sourire en coin que vous affichez là encore. Rien n'a de sens, tout est dérisoire pour vous, j'ai l'impression.
Non, pas dérisoire.
Et tout peut être tourné en dérision.
Dérision, tout est vu avec ce que j'essaie d'appeler de la clarté lucide. Et surtout, il y a une qualité qui manque aujourd'hui à peu près partout, c'est l'ironie. L'ironie n'est pratiquement plus comprise. Donc, si vous voulez, mon héros préféré est Voltaire, c'est-à-dire les Lumières, c'est-à-dire l'ironie qui va pouvoir rester, malgré tout, en vie.
Centre, c'est donc à lire chez Gallimard, ça sort demain. Merci beaucoup Philippe Solers.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venu en direct aujourd'hui sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de cinéma. Ben oui, on est mercredi. Mathieu Charrier avec nous, à tout de suite.
9h24. Europe 1, 9h26, Maxime Switek.
Le cinéma, bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Ce matin, vous aviez envie de nous parler de deux films, deux coups de cœur. Lady Bird, film Europe 1, et Call Me By Your Name. Deux films avec la nouvelle star d'Hollywood, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, qui est nommé aux Oscars, il a tout juste 22 ans.
Ouais, c'est une sorte de James Dean un peu. Alors papa est français, maman est américaine, donc techniquement il est franco-américain, même s'il est né à New York et a vécu une grande partie de ses vies aux États-Unis. Mais on a aussi envie de dire qu'il est français,
sur le côté français,
parce qu'il est très bon. Alors dans le premier film, Call Me By Your Name, c'est vraiment un film éponge, vous savez, qui fait appel à tous vos sens. On est en Italie, 1983, déjà imaginez les senteurs italiennes, le soleil qui brûle votre peau, comme chaque été. Perlman, qui est professeur d'archéologie, invite dans sa villa de Lombardie l'un de ses étudiants pour qu'il vienne peaufiner sa thèse. Cet été-là, il s'appelle Olivier, et il faut bien dire que ça irrite un peu Elio, qui est donc joué par Timothée Chalamet, qui est le fils de ce professeur d'archéologie, il doit céder sa chambre, et puis surtout cet étudiant, c'est une sorte de grand et bel et faible, il est un peu froid, nonchalant, limite dédaigneux. Sauf que vous m'avez vu venir, une relation de séduction va se nouer entre les deux hommes. Jusqu'où ira-t-elle, Maxime? Jusqu'où notre jeune Elio, qui pourtant débute ses vacances, découvre sa sexualité avec une jeune fille du coin? Donc jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où se laissera-t-il aller dans cette séduction homosexuelle? C'est vraiment un film sur le désir, la confusion des sentiments, avec beaucoup de silence aussi, de non-dit, des dialogues assez ciselés. On ressort un peu dans un état de torpeur, vous voyez. Donc on n'est pas dans le film militant, c'est un bon moment de cinéma. Finalement, c'est un film qui nous ramène à notre premier amour, quel qu'il soit, et je dois dire que c'est assez agréable.
Autre coup de cœur, Lady Bird.
Notamment pour sa réalisatrice, qui nous raconte elle son histoire en quelque sorte. Elle s'appelle Greta Gerwig. Elle s'est fait connaître en tant qu'actrice dans les films de Noah Baumbach ou comme figure de proue, vous savez, du mouvement Mumblecore. C'est ces petits films tournés dans des appartements avec peu de moyens. Alors là, comme son héroïne Christine, qui a les yeux clairs et les cheveux rouges, qui se fait donc surnommer Lady Bird, comme elle, elle a grandi à Sacramento en Californie. Elle a décidé de quitter son lycée catholique, son milieu modeste, pour le foisonnement culturel de New York. Et donc on sent qu'elle sait de quoi elle parle quand elle dresse le portrait tout en finesse de cet ado de 17 ans qui rêve de prendre son destin en main, de s'éloigner de son père dépressif au chômage, de sa mère envahissante. Bref, c'est un énième film sur la crise d'adolescence, mais très bien fait. C'est un film européen que nous sommes fiers de soutenir.
Et voilà, deux coups de cœur pour Mathieu Charrier aujourd'hui. Lady Bird et Call Me By Your Name. Merci Mathieu, merci encore Philippe Solers. Centre chez Gallimard, je le rappelle. Merci à Nicolas. Ça sort demain, absolument. Et je me tais parce que Philippe Vandel est là. Je vous cède la place.
Oui, et d'autant que j'avais un son, parce que nous entendrons dans Village Média, on va parler de la Suisse, on va parler de Pascal le Grand Frère, mais on aura dans l'émission la star des Jeux Olympiques d'hiver, le gars qui a fait
Vous avez bien fait de taire.
Exactement.
Et ben voilà.
Il sera juste avec nous tout de suite.
À tout de suite, Philippe Vandel.